Bonjour les amis, je vous remercie d'abord Nono l'escargot qui vient d'écrire ce chaleureux et gentil message dans le chat à l'instant. Vous savez, la fameuse formation Valorant que j'ai lancée. Merci pour la formation Samumu. J'aime bien qu'on m'appelle Samumu en vrai. Personne ne m'appelait vraiment Samumu avant Twitch. Je suis radiant désormais, alors que j'ai toujours été bronze. Ma femme est revenue vers moi, parce que parfois il y a des à côté qui font la formation, parce que tu irradies, tu es tout chani, tu es tout lumineux. Ma femme est revenue vers moi, j'ai gagné au loto. Alors, tu n'es pas obligé, mais si tu veux faire un geste pour celui qui a créé la formation, n'hésite pas. Et je vous écris depuis Artemis 2, dans lequel je suis parti vers la Lune. Voilà. Il est bon de lire des bonnes nouvelles comme ça le matin. Ça fait plaisir. Merci pour le partage. Ah. Tu sais que Charles Alonc l'a dit du bien de toi hier. Bon, c'était pour tacler Nagui, mais il a dit du bien.
Tu me permettras de remettre cette information en question. Nous la vérifierons nous-mêmes. Dès que je vous trouve le temps... Pardon, sans faire un jour au travail de la commission... Je vous montre le sommaire d'aujourd'hui. On a quand même des choses plus importantes. Si je le trouve, il est là. Voilà. C'est pas un gros sommaire. C'est pas un petit sommaire. C'est un sommaire moyen. Et pardon, l'Iran, le périscolaire. Qui regarde ces news? Et l'espoir du pipi pour l'agriculture. Pardon. Mais je vous ai mis un petit article sur Nagui, parce que c'est marrant. Mais et on trouvera le moment d'ici dimanche soir. Enfin, on trouvera un moment pour regarder, parce que c'est, en fait, c'est drôle. On apprend un peu de choses sur l'univers de la télé, et puis aussi comment fonctionne notre démocratie, notre république, notamment l'Assemblée, avec le travail de ses députés. Et donc, d'ici dimanche soir, on fera un petit récap là-dessus. Il fait quelle durée l'audition, il fait quelle durée, parce qu'en gros faut multiplier par deux, hein. Alors printemps de l'esprit critique, ah oui, c'est demain ça, peut-être la régalade, l'espoir du pipi, tout à fait, oui, tout à fait, je vous dis ça dans un instant. Commission d'enquête sur... Ça a duré combien de temps leur histoire là, parce qu'ils sont pas mal crêpés le chignon quand même, donc 3 heures. Par contre, Scamuel, tu ne crois pas t'en tirer uniquement avec le message de Nono l'escargot pour la formation. Je peux tout vous expliquer. C'est un petit... Avec Riot, on a une petite... Il y a un truc qui n'est pas... On n'est pas tout à fait... Voilà, tu vois. Voilà. Donc, oui. Alors, Nagui. Comment que ça dure, ce truc. 5h58. Non, ils ont dû coller un truc derrière. Ouais, c'est ça, ils ont collé autre chose. Ah, c'est monsieur Rodolphe Belmer, ça, je ne vais pas te tromper, enfin, ça, je reconnais ça. Ah, ils ont collé un autre truc derrière, ils ont enchaîné. Ah, je connais ce monsieur là, avec la chevelure un peu là, Raon finalement. Raon, l'homme des arts farouches, les âges farouches, le coutelas en ivoire là. Vous vous rappelez? Petite vibe vite fait. Nagui. Ah, c'est monsieur Belmer, je connais bien monsieur Belmer. Alors monsieur Nagui, il est parti quand? Suspension. Ah ouais, c'est ça, 3h. 3h, 3h10. Ouais, bon, faut compter 5h30. 5h30, 6h de react, hein. Bah ouais, faut ça. Hein. Eh oui. On va se trouver un moment entre maintenant et dimanche soir. Promis. Bonjour Samuel, l'audition de Nagui, t'es une masterclass, il y a un nouveau mème débloqué. Natville. J'ai suivi ça, j'étais en plateau de questions pour un champion. Hier, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Ouais. C'était tendu, ouais. Ouais, je sais, ouais, j'ai cru comprendre, ouais. Ouais, c'est rigolo. Il y a l'histoire de justice, de plainte, de poursuite en justice, de... Pop, ça, c'est... Ah, ça part en... Hein ? Oh là là. Je suis encore sur le règle de Bolloré. Bolloré, c'était marrant. Bolloré, c'était... On l'a fait, c'était pas mal. Vous l'avez en replay. Merci à Lunera. Merci tes boycotts. Merci Poum. Oui, merci pour les gentils messages. Bah oui, j'étais absent bah, plusieurs jours du matin. Alors pas de la revue de presse, parce que je voulais faire le soir. La semaine dernière, donc 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, je voulais faire le soir, sauf hier soir, parce que comme on enchaînait avec ce matin, et que les 7 jours On était vraiment chargés, quoi. Du coup, hier soir, j'ai pas travaillé. J'ai fêté le 1er avril et l'anniversaire de mon amoureuse et ma découverte des échecs. Je suis resté à la maison parce que j'ai découvert les échecs. Parce que quelqu'un avait pu me prévenir avant que les échecs sont plus addictifs que les jeux vidéo. Si quelqu'un avait pu me dire que quand tu découvres les échecs, tu joues jusqu'à 2 h du matin alors que tu es crevé. Mais pas. Hey, ses yeux. C'est pas le travail. C'est pas question pour un champion. C'est pas les journaux. J'ai joué jusqu'à 2 h du matin. C'est quoi cette diablerie? Ta 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 ta. J'ai bien lu le dernier sujet du sommaire. Oui, c'est l'espoir du pipi. Enfin, c'est moi qui l'ai titré comme ça. Hein. Tu imagines bien que c'est pas écrit comme ça. Ouais, c'est fou les échecs. Hein. Oh, ta 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 ta. Joli. T'as combien d'élo? Pop 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 pop. Je découvre le jeu. Moi, je n'ai jamais lancé. Je viens de lancer le jeu. C'est un triple A. Hein. Triple. Personne m'avait parlé de ce triple A. C'est sorti quand les échecs? C'est quoi le studio? C'est français? C'est une grosse prod, hein? Il y a tout un. Ça a l'air tout simple comme ça, puis plein d'histoires de stratégie dessus, hein? Oh là là là. Blitzcrim, excellent avec ses vidéos sur les échecs. Non, mais en fait, c'est un jeu vidéo, hein? En fait, c'est un jeu vidéo, hein? C'est Riot? Ah bah ça va alors. Petit partenariat qui va bien. Merci Alexandra. Easy to start, hard to master. Ouais. Mais c'est un jeu de fou, hein. C'est un jeu de fou, hein. Pourtant, tu avais dit que tu n'aimais pas les échecs plus jeunes. Non, j'avais dit que je n'avais jamais lancé les échecs plus jeunes. Que ce jeu m'impressionnait, me faisait peur. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas les échecs. On dirait un rapporteur d'une commission de l'Assemblée qui comprend rien tout de travers. Faut bosser, les gars, à un moment. Faut bosser, il faut vérifier les infos. Faut écouter, faut un minimum de rigueur, quoi. C'est Charles Aloncle qui est dans le chat, là, qui dit ça. Merci, Thomas Mathieu. Alors, j'ai plein de retours positifs sur la formation Valorant, ça fait plaisir. Oui. Merci, Fourmi en poudre. Mais ne t'inquiète pas, c'est que le début de l'histoire. Petite surprise, petite surprise. Bon, comment ça va, vous? Merci, Gaga. Pour le prime. Monsieur ou fille? Parce que sinon, ça peut être peut-être Lady Gaga. Peut-être les. Merci, merci. Il y a un monde où c'est Lady Gaga. La très bonne série, Le jeu de la dame, avait augmenté le nombre de joueurs d'échecs. Alors, moi, j'avais regardé cette série excellente, mais ça m'avait pas donné envie de jouer. J'ai trouvé la série formidable, mais comme la dame, sans mauvais jeu de mots, est quand même une génie des échecs dans l'histoire, ça m'a conforté dans l'idée que c'était fait pour les surdoués. Mais là, c'est en fait se voir mes enfants jouer. Ils ont 9 et 6 ans et ça s'est mis aux échecs comme ça, bam, sur le tas. Et je me suis dit, mais bah, allons-y, quoi. Et comme ça, je joue avec eux. Bonjour Sam, quel corps de rêve dans cette affiche Wanted? Ouais, alors, ça c'était il y a longtemps. Hein. Oh, la jolie nouvelle dans le chat. C'était il y a longtemps, hein, on n'en est plus là. Hein. Tu vois une petite bouteille d'Orangina? Ce que moi, je suis un peu bâti comme une bouteille d'Orangina. Fin en haut et large du bas. Alors regardez la bonne nouvelle dans le chat à l'instant. Je fais mon retour dans la team. Looping Roison. J'ai eu un petit bébé. Donc un peu moins de temps pour t'écouter, mais ce retour fait plaisir. Félicitations. J'espère que tout le monde va bien. La pulpe reste en bas. Ouais, je sais pas où est la pulpe, mais ouais. Si tu veux un joueur d'échecs et youtubeur Kevin Tran. Kevin Tran, Kevin Tran, Kevin Tran, Kevin Tran. Le frère d'Henri? Tiens donc. Alors comme ça, certains ont accès à mes files, à mes dossiers. Je sais très bien qui est Kevin Tran. Car il n'est pas impossible qu'il pop dans un événement que je suis en train d'organiser. Je dis ça, je dis rien. Le premier feat. Eh oui, eh oui. Mais ils savent tout, vous êtes trop fort. Ils savent tout, ils sont trop forts. Ouais, Henri et Kevin, tout à fait. 1 h 29 au SMI, c'est beau ça. C'est beau ça. Merci Hazard. Merci pour ton message. Incroyable. En vrai, c'est un jeu qui stimule le cerveau. Oui, enfin, pas à mon niveau. Moi, j'essaie de pas me faire. Là, je joue aux dames pour l'instant. J'essaie de croquer des pièces, de pas me faire croquer des pièces. Je réagis tour par tour. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune projection. De loin, on dirait que je joue aux échecs, mais je joue pas aux échecs. Là, je joue aux dames, là. Mais faut que je commence à anticiper, quoi. C'est incroyable, ce jeu. Tu penses quoi de Patrick Sébastien à l'audition? Non, ça, je vais pas regarder ça, Tarasse. Là, j'ai pas d'avis, là. Non, je suis pas sûr. Non, en fait, il y a plein d'autres. Enfin, cette commission, comme débauche d'argent public, mais cette commission, elle entend beaucoup de gens. On n'est pas toujours, comment dire, on n'est pas toujours impressionné par ce qu'on apprend pendant une audition de 3 heures. Parfois, on se dit tout ça pour ça. Prenez Vincent Bolloré, c'était très intéressant. On a beaucoup rigolé, mais qu'est-ce qu'on a appris? Rien. On a bien rigolé, hein. C'était sympa, hein. Donc, non, Patrick Sébastien, à moins que vous puissiez me dire là maintenant, j'ai écouté Patoche et vraiment, il y a eu des trucs hyper intéressants sur l'audiovisuel public. J'ai appris des choses. On a des clés, des recettes pour que l'audiovisuel public marche mieux ou coûte moins cher ou il y a des trucs. Là, oui, mais. Hein, là, je suis pas fou, là. Pas sûr, pas sûr. Nagui, ouais, Nagui, ouais. Nagui, peut-être, peut-être. Nagui, ne serait-ce que pour le côté un petit peu octogone là qu'il y a eu là. Ouais, peut-être. Ça, on va se la faire d'ici dimanche soir, ouais. Mais là, il me faut 5-6 heures devant moi, parce que là, il y a du boulot là. Là, il y a du boulot, ouais. Je propose une commission sur les commissions. Moi, je serais assez d'accord. Ouais. À un moment, il va falloir qu'on fasse une commission sur les commissions. Parce qu'à un moment, c'est quand même de l'argent public tout ça. Hein. Ouais. Alors Xavier Niel, ça m'intéresse. Xavier Niel et Pigas, ça c'est forcément à regarder. Je ne sais pas si ce sera une masterclass. J'ai payé ta formation, Samuel, j'ai encore rien reçu. T'inquiète, t'inquiète, je suis en train de bosser dessus parce que c'est en partenariat avec un copain à Chypre. Je suis en train de bosser dessus. Vous allez recevoir ça sous peu. Non, alors Niel, Xavier Niel et Pigas, Mathieu, je crois. Oui, ça se regarde ça. Ouais. Est-ce qu'il y aura un peignoir offert dans la formation? Bah justement, ça c'est le volet Chypre. Bon, il est gentil le gars, mais il est pas carré, carré, carré. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète, j'aurai des peignoirs pour tout le monde. J'en ai pas vu un pour l'instant. Ça m'a pas l'air carré, carré, carré. Le mec qui vend des formations, c'est pas ce qu'il fait le gars. Enfin bon, je suis en train de bosser dessus, je vous tiens au courant. Si tu veux faire un let's play d'un nouveau jeu, ce serait lequel? Je sais pas encore. Je sais pas encore, je sais pas encore. Il y a trop d'actu entre les revues de presse, entre la commission, entre. Ah, tiens, le grand décryptage. Ah, demain, vous êtes là, hein? Hey, demain, hey, vous les balayez, hein? Demain, c'est le gros stream, là. C'est le gros stream du mois, je dirais. Hein, hein? Point d'exclamation. Décryptage, c'est le printemps de l'esprit critique en ce moment. C'est bien le printemps de l'esprit critique parce qu'on n'en a jamais assez. De printemps? Ha! Et l'esprit critique. Donc, on est dedans et du coup, on fait un live en direct de la Cité des sciences et de l'industrie, mesdames et messieurs, avec 3 parties. 9h, la petite revue de presse, vite fait. À 10h, un débat, petite compète, battle d'éloquence avec les gens sur place. C'est une salle de 350 personnes, mesdames et messieurs. Hein. C'est pas un stream d'amateur. Hein. Et donc, on fait ça de 10h à 11h avec des battles d'esprit critique sur la question de. Parce que le thème du printemps de l'esprit critique cette année, c'est l'argent. Comment on met l'esprit critique dans l'argent, comment on se fait pas couillonner, etc. Comment on parle d'argent. Et puis à 11h, table ronde avec 2 invités pour parler de ces sujets. C'est beau ou c'est pas beau? Regardez comme il est fier, le mec, sur l'affiche, là. Regardez, avec le port altier, le regard au loin, le cheveu rare mais fier. Hein. Le grand décryptage! L'émission en direct avec Samuel Etienne. Tiens, je parle comme Patrick Sébastien, c'est super bizarre. Le 3 avril 2026, et on fait tourner les serviettes. Hey, hey. Désolé. Merci Knowledge pour le Prime. Merci Jim Boring. Je t'écoute au maraîchage, la classe. La classe. Qu'est-ce que ça fait pousser? Donc ça c'est demain. Et alors vous pouvez. Alors attendez, live, bien sûr. Stream, bien sûr. Le poil luisant et l'œil hagard. Alors l'œil hagard, c'est plus ce matin. Ce matin j'ai un peu de mal, j'ai dormi 3 heures. Et je pense que ça s'entend. Je pense, alors, j'ai une petite début de migraine là, la petite barre. Puis j'ai plein de boulot qui arrive. Et puis je suis en mode flemme, j'ai pas envie. Vous connaissez? Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je suis perdu. Donc ça c'est demain. Ah oui, c'est en live et c'est IRL. IRL. Eh oui. Donc pour l'exclamation de décryptage, il y a un lien, tu cliques, bap, tu t'inscris, c'est gratuit, tu viens me voir. Voilà. Et ça me permettra de vous donner des nouvelles de la formation Valorant, bien sûr. Ce matin, mon petit de 3 ans faisait que chanter le petit bonhomme en mousse devant l'école en attendant l'ouverture. J'avais honte, mais ça a beaucoup fait les autres parents. Oh là là, Lilou, vous savez qui? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai une envie de me faire un petit bonhomme en mousse, là. Allez, c'est parti. Oh, fallait pas dire ça. Le petit... J'ai pas besoin des paroles, moi. Le petit bonhomme en mousse... Oh, mon clavier qui marche pas. Voilà, parole. Ouais, karaoké, quoi. Je le connais pas par cœur, mais c'est une des plus gros. Alors, est-ce qu'on a le karaoké? Parfait. Je l'ai. Salut, la ma coquine. Oh, force. Qu'as-tu fait de spécial pour être si beau ce matin? J'ai dormi 3 heures. C'est mon super pouvoir. J'ai deux super pouvoirs. Je lis très vite et quand je dors pas, je suis beau. Enfin, j'ai un glow, quoi, j'ai un truc. Ok, il est beau. Ok, regardez comme il est beau celui-là. Regardez comme il est beau celui-là. Oh le machin! Et où les paroles? Allez, bon, allez, chauffe, Marcel! Allez! Petit. C'est pas Patrick Sébastien. C'est bon, c'est raté pour toi. C'est comme la chanson. Comme un moment le soir. La petite marionnette. Qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient. Le soir où tu as du chagrin. Ah non, c'est au-dessus de mes forces, c'est vraiment. Ah, je suis pas assez dormi pour ces conneries. Voilà, donc c'est. Est-ce qu'il l'a chanté à l'Assemblée au moins? Est-ce qu'il l'a... On enlève le sommaire, ça vous... Est-ce qu'il l'a chanté à l'Assemblée, au moins? J'ai encore perdu des viewers ou pas? Je me suis réveillé dans un cauchemar ou quoi? C'est une paralysie du sommeil? Non, c'est moi qui chante! J'ai vomi mon café, me dit Leader Mew. Oh, j'aime. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, mon Dieu, me dit Valimp. Alors... Vengez-vous, vous qui travaillez aujourd'hui, allez me chanter ça au bureau. Allez me chanter le petit bonhomme, vous allez me chanter ça. Tu chantes ça dans l'ascenseur, tu mets ça dans la tête de tes collègues. Je perds mon taf si je chante ça. Ah bon? Sam, si tu passes au sommaire maintenant, je paye des subs. Oh là 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 là, vous me prenez par les sentiments. Allez, ok, on démarre la revue de presse. Ok. De toute façon, après, il faut que je vais à la Cité des Sciences cet après-midi pour faire la répète pour demain. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, attendez, où est-ce que ça se passe? Ça se passe là. Ouais, c'est pas mal. Ok, on a tout. Ok. Merci, petite Malouine en sucre. Merci, Pamphile. Merci tous les deux. Merci, Knowledge. Vous êtes incroyables. On est go? Il n'a rien chanté, mais par contre, il a fait la promo d'une future chanson sur Delphine Ernotte.
Ça régale.
Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Sam doit-il faire une tournée des campings? J'aime ce sondage. Tin, tin, tin. Oui, mais habillé. Waouh! Avec patoche alors. Je peux pas cet été, j'ai des trucs de prévu. Tellement hâte. Merci le cœur étien. Promesse tenue. Ok, bah mosnos. Allez les amis, je vous envoie le sommaire. 24 minutes d'intro. Ça, c'est un beau sondage ça. Ça c'est du sondage. Ça c'est un sondage qui a la cuisse ferme ça. Joli, joli, joli. Ok. Allez c'est parti. Reconcentre-toi Samuel. Allez. Élève ton niveau de jeu. Élève ton niveau de jeu. Oui, ouais, oui, les gens ne me cessent de poser la question. Hein. Samuel, j'ai vu Nagui hier, le mec qui fait N'oubliez pas les paroles, incroyable, va assembler, est-ce que tu vas le faire le react? Oui, oui, je vais faire une commande, oui. Oui, 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 d'ici dimanche soir, je vous fais un react. Vous savez, mais c'est un react fleuve, hein, il faut 5-6 heures hein, pour un machin comme ça. Hein. Ok. Ok, c'est parti, allez. Ne faites pas cette cascade à la maison, c'est réservé aux professionnels. 30 ans de journalisme. 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. Alors, retour de la matinée Étienne, je suis désolé. Ces derniers jours, début de semaine, la semaine dernière aussi, il n'y avait plus de matinée Étienne. Il y avait des soirées Étienne parce que voilà, j'étais en question pour un champion en tournage. 6 émissions par jour, ça commence à 8h le matin, ça finit à 19h. Tu ne peux pas faire de revue de presse. Donc je suis de retour et j'en suis bien content. Alors vous inquiétez pas, on est tranquille jusqu'en septembre. Hein, parce que là, dans le jeu, je suis en 2027. Waouh ! Sans blague, j'ai vraiment enregistré jusqu'en début 2027. On est assez tranquille. Donc, les prochains tournages, c'est en septembre. Hein, et d'ici là, bah, la matinée Étienne, c'est de nouveau tous les jours, sans exception, au minimum du lundi au vendredi. Donc, bienvenue et merci à ceux qui nous écoutent en live ce matin sur Twitch. Merci à ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube. Vous êtes des monstres, des goûts, des belles personnes. Et que dire de tous ceux qui nous écoutent et toutes celles en podcast audio tous les jours. Là, j'ai envie de vous payer un croissant. Voilà, voilà, et un café. Voilà. Donc, c'est toutes les plateformes de podcast, bien sûr. Les Apple Podcasts, les Spotify, les Deezer, ça s'écoute. En buvant un café, en mangeant un croissant, ça s'écoute l'après-midi, le matin, le soir, la nuit, si vous faites des insomnies, ça s'écoute au sport, ça s'écoute en marchant dans la rue, ça s'écoute au volant, ça s'écoute en jouant aux jeux vidéo, ça s'écoute en prenant un bain, ça s'écoute même dans ce que vous voulez, y compris ce à quoi vous êtes en train de penser, bande de grigou, parce que je vous connais. Donc c'est parti pour le sommaire, c'est-à-dire que je vais d'abord vous dire de quoi on va parler aujourd'hui quelle journée, jeudi matin, ok? Oui, de la peinture, c'est ça, je voulais parler de si vous faites de la peinture. Alors, je vous ai mis, c'est un sommaire moyen, c'est pas un sommaire petit ni un sommaire grand, c'est un sommaire moyen de qualité. Je vous ai mis l'essentiel, on va parler de la guerre en Iran bien sûr, avec deux articles, Trump qui prépare son retrait de la guerre. Alors pourquoi je vous l'ai mis à l'indicatif? Parce que c'est ainsi que les Échos ont écrit ce titre ce matin. Donc, Trump prépare le retrait américain de la guerre. Donc, premier degré, c'est bientôt. Après, c'est du Trump. Donc, on va mettre un conditionnel peut-être. Hein, vous savez quoi? Je vais le corriger tout de suite, ce titre. On pourrait même mettre un point d'interrogation. Mais bon, préparerait son retrait de la guerre. Voilà, on va se pencher sur les infos. Rappelons que au début il avait dit ça va durer 4-5 semaines cette histoire, et puis maintenant qu'on est à 4-5 semaines, il dit ouais, alors dans 3 semaines c'est terminé. Ce qui est génial, c'est que les marchés ont réagi positivement et hop, sont repartis en flèche. Waouh, donc on va lire ça. Et puis le fait, alors ça c'est très intéressant, que les pays du Golfe pourraient rentrer dans le conflit, hein, et intervenir militairement dans le détroit d'Hormuz. Ça c'est intéressant quoi. Ah, pas ce matin, les marchés financiers sont plus dupes, là, ça part en sucette, là, parce qu'hier, ça s'est monté fort, hein, fais voir, le petit bonhomme mousse, ça a ouvert en baisse, là, ce matin, combien, là, ah oui, un petit moins 1%, ouais, à Paris, ok, Nikkei, moins 2%, le DAX, moins 1,56%, ça c'est l'Allemagne, le Nasdaq, positif, mais ça c'était hier, ok. D'accord. On vous voit les boursicoteurs, hein? Ok. Donc on se penchera sur ça, et puisqu'on parle de l'Iran, deuxième article, le prix faramineux de la guerre en Iran, ça coûte combien une guerre? Waouh, les montants sont fous. Ce truc coûte un pognon de dingue. Que fait Charles à l'oncle, hein? Il devrait créer une commission. mais là, c'est waouh! Donc, vivement que l'Assemblée nationale se penche là-dessus. Non, c'est les chiffres sont complètement fous, quoi. Voilà. Alors, je vous parlerai aussi du périscolaire. Vous n'avez pas échappé que je n'ai pas parlé beaucoup du périscolaire, alors que c'est un sujet essentiel, gravissime, hein, ce qu'on a appelé le scandale du périscolaire, avec tous ces enfants agressés, dont à l'occasion, dans le cadre d'activités périscolaires à Paris, en région parisienne. Vous imaginez bien que ça ne se passe pas qu'à Paris, hein. Mais il y a eu un gros focus sur Paris, parce qu'il y a eu toute une série de faits qui ont été rendus publics. Et je trouvais, pardon hein, pour mes confrères, mais je trouvais que les articles n'étaient pas fous. Ça manquait un peu de recul. On parlait de cette histoire-là, de cette histoire-là, la colère-là, la réaction, l'absence de réaction. Mais il y avait pas de vue d'ensemble d'un sujet complexe. Et je crois que j'ai trouvé ce papier, justement. Je comprends pas que ça buzz pas plus. Oh, mais ça buzz. Oh, des articles. Essilakov, j'en ai vu des dizaines. Non, il y en a des articles. Mais je trouvais que c'était pas super bien traité. Là, on a un dossier dans l'Humanité. C'est la une de l'UMA. Ce matin, périscolaire, des clés pour sortir de la violence. La grande défaillance. C'est le titre de l'UMA. La multiplication ces derniers mois des affaires de violence dans les structures d'accueil hors du temps scolaire. C'est ça le périscolaire. Hein. Périscolaire, si on dit pas de bêtises, ça intègre les activités à côté de l'école, mais aussi tout ce qui peut être, par exemple, garderie ou temps après l'école, ou cantine même. Ouais. Donc, dans les structures d'accueil hors du temps scolaire, lève le voile sur un secteur en déshérence à qui on confie des missions, des responsabilités capitales, tout en le privant des moyens de les assumer. Ouais. Oui, l'aide aux devoirs, la garderie, tout ça. Vous avez raison. Donc, on a un dossier dans l'UMA qui, je trouve, est plutôt bien fait. On le lira ensemble. Nagui rend coup pour coup. Pa, pa, pa. Oui, oui, il y avait un petit côté octogone, effectivement, hier à l'Assemblée. Voilà. Là, c'est la petite photo juste avant le match. Parce que quand vous rentrez dans la salle, vous allez être auditionné, vous avez plein de photographes. J'ai l'impression que vous êtes à Cannes. Mais sérieux, hein. Voilà, il manque le tapis rouge et il manque les marches. Et c'est... Sans mentir, je sais pas, 5, 6, 7, 8 photographes. Droite, à droite, moi, monsieur Étienne, ouais, s'il vous plaît, à droite, un petit sourire, ouais, le profil. Voilà. Et donc là, c'est une photo qui est prise comme ça. Voilà, comme ça, ça illustre les papiers le lendemain. Le lynx. Voilà. Donc, effectivement, Nagui était auditionné hier par la commission d'enquête sur le financement, l'indépendance et la neutralité de l'audiovisuel public. C'était une audition attendue, écrit le Parisien, elle s'est révélée tendue. Ah oui, c'était tendu, ouais. C'était tendu dès que Nagui a commencé à prendre la parole. Il y a une histoire de plainte contre X, vous mettez en danger ma famille, non, c'est vous qui me mettez en danger, j'ai reçu des menaces de mort, a dit le rapporteur, non, c'est moi qui ai reçu des menaces de mort, et c'est toi qui dis qui est, et puis t'es un voleur de patates, et puis qu'est-ce que vous racontez, et vous confondez chiffres d'affaires et bénéfices, vous y connaissez rien. Waouh, ça a duré 3h10. Voilà. Donc on lira un petit papier qui résume un peu ça, mais surtout on se fera un petit react d'ici dimanche soir. Voilà. Un petit focus également sur CNews, qui est l'une des chaînes d'info en France, et La Croix se pose une question, c'est qui regarde CNews? Alors, du monde forcément, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'est la première chaîne d'info, à la faveur de la guerre en Iran, ça a baissé, CNews a baissé. C'est bizarre d'ailleurs, parce que... Arrête, t'es pas en one man show, Samuel Etienne, calme-toi. Le mec allait dire, oh, c'est bizarre, c'est une chaîne d'info, quand il y a de l'info, elle fait moins d'audience. Dis donc, Samuel, c'est quoi encore ce propos militant? Tu veux être reconvoqué ou quoi? Ouais, c'est paradoxe de CNews, c'est quand il y a beaucoup d'infos, et notamment de l'actu internationale, il y a moins de gens à les regarder. Ils partent sur les autres chaînes d'info. Comment ça, les vraies chaînes d'infos? Mais vous êtes des malades ou quoi? On va se prendre un procès. Donc bref, blague à part, qui regarde CNews? Donc il y a plein de gens qui regardent CNews, et qui sont-ils? Alors La Croix essaye un petit peu de nous proposer un portrait robot et nous dire un petit peu... Puis il y a des chiffres sur l'âge, par exemple, qui sont ces gens. Voilà. Donc on va regarder ça avec La Croix. J'ai trouvé Nagui véhément. Alors avant de vous en prendre à Nagui, déjà, apprenez à l'écrire, ça prend pas de Y, hein, ça fera plaisir. Faites pas comme l'autre, là, bossez vos sujets, bordel. Hein? Ça fait... Non, mais quand tu viens dans un chat critiquer un gars et t'écris mal son nom, ça commence mal. Hein? Faites un effort, bordel. Quel âge ont-ils et pourquoi des vieux? Oui, effectivement, oui. Ah, Spoofy! Alors, ça s'appelle un contournement de compte. Quand un gars arrive dans le chat et écrit, c'est Spoofy Gnosis. Il ne faut pas dire ce que l'on pense sur ce stream car on est ban, c'est ça la liberté d'expression. Alors que c'est son premier message. Alors que BS te dit, c'est le premier message de cette personne dans cette communauté et qui se plaint d'un ban. Bon, le mec dit, fais-nous gagner du temps. On dit, bonjour, c'est moi, je contourne le ban. C'est plus rapide. En vrai, ce serait plus rapide. Alors, je sais pas, tu vois avec les modos, écoute. C'est pas très fut-fut comme move. C'est pas toi qui vas apprendre à jouer aux échecs, manifestement. Oh là là, le kiff. On vit une époque formidable, écoutez. Hein? On vit une époque formidable. Et puis alors. Non, non, je suis pas ban, c'est ta réputation, Samuel. Mais Spoofy, t'es transparent. T'es d'une transparence, écoute. Tu serais de l'eau, je te boirais à grande goulée. T'es de l'eau claire, t'es magnifique. Voilà. Bien, mon chouchou. Reste avec nous, tiens. Je serais curieux d'avoir tes analyses sur l'actualité. À mon avis, je vois à peu près dans quelle zone ça doit se situer. Allez, reste avec nous, partage-nous tes analyses, comme ça nous permettra d'avoir une petite confirmation. Voilà. Un petit chenil le matin, comme ça fait plaisir. Ça me réveille plus qu'un café, moi. Alors, on parlera de pipi, tiens. Voilà. Non pas de ceux qui ont été finis au pipi. Paf! Putain, Samuel, il travaille vraiment plus à la télé, lui. Il a plus rien à foutre de rien. Voilà. Donc pas de ceux qui ont été finis au pipi, mais du pipi comme d'un espoir pour l'agriculture. Voilà. Alors Libération, ils se font plaisir, bien sûr. Fertilisant l'urine, une goutte d'espoir. Une goutte. L'urine. Sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, la ferme d'Emmanuel Laureau participe à une expérimentation en utilisant le pipi comme engrais. Voilà. Une solution encore balbutiante qui vise à réduire notre dépendance aux intrants azotés importés du Moyen-Orient. Vous pensiez qu'on allait parler de pipi alors qu'en fait qu'on va parler de l'Iran. Eh ouais, mais c'est dégueulasse. Ah bah justement, l'article est intéressant. Parce que je me suis posé des questions, moi. Je veux dire, mais attends, du coup, ça sent le pipi? Ça sent le pipi, le champ sent le pipi? Voilà. Et quand le vent tourne, est-ce que les voisins... Eh ben oui. Eh ben oui, vous avez dit, bah, ça sent la pisse. Voilà. Donc, j'avais envie de vous lire ce papier. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis, Sugar? On parle de pipi, mais on a loupé un article du Monde sur l'éjaculation. Moi?
Parce que, mais oui, bien sûr, votre
Moi?
parti,
Mais qui elle
son
est celle-là?
parti,
Qu'est-ce que
le
j'ai fait
RPR.
Moi, j'ai raté un article sur l'éjaculation dans le monde? Je lis le Monde tous les jours, monsieur. Je l'ai pas vu celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois encore un historique pourri, moi. Google, le Monde éjaculation. Voilà. Je fais pas Google Images, hein, parce que là, à mon avis. Ah oui, je l'ai lu celui-là. Éjaculer plus souvent, améliorer la qualité du sperme. Oui, je l'ai lu, ouais. Oui, je l'ai lu, je l'ai lu. Je l'ai lu. Éjaculer plus souvent, améliorer la qualité du sperme. Oui, c'est vrai, je pourrais. Oui. Oui. Mais après, l'OMS n'est pas d'accord. Il y a des trucs. Oui, je l'ai lu, je l'ai lu. En fait, le titre est marrant et l'article, il est assez rigoureux, en fait. Quelle doit être chez les hommes la durée d'abstinence sexuelle optimale avant la mise en œuvre d'un projet de procréation? Ouais. L'OMS déconseille en tout cas d'éjaculer. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Hein. C'est pas de la rigolerie ici, c'est sérieux. Hein. Déconseille en tout cas d'éjaculer 2 à 7 jours avant de fournir un échantillon de sperme pour une analyse. Mais une abstinence sexuelle plus courte pourrait être préférable pour améliorer la qualité du sperme. Voilà. Donc, il y a une étude scientifique et l'OMS sont pas tout à fait d'accord. Voilà. En gros, faudrait pas trop. Faudrait, bon, je vous résume le truc. Faudrait. Non, pas 2 à 7. Non, pas en continu. Pas 2 à 7 jours en continu. Non, 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 non. Non, quand même pas. Non, en fait, le truc, c'est que. Il y a une étude de l'Université d'Oxford ici qui dit que, en gros, plus le. Pardon, hein, je rentre dans le détail. Hein, plus le sperme est frais. Enfin, voilà. Et mieux c'est pour la qualité des spermatozoïdes. Autrement dit, je l'ai sous les yeux ici. En cas de stockage prolongé, la qualité des spermatozoïdes matures se détériore, et indépendamment de l'âge de l'homme. Voilà. Donc, une abstinence de moins de 2 jours produit des éjaculats, je ne savais pas qu'on pouvait dire ça, moi, de meilleure qualité. Voilà. Sauf que l'OMS, lui, recommande autre chose. Voilà. Donc, d'attendre quelques jours. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme j'ai vu que ce n'était pas clair, cette histoire, vous connaissez ma rigueur. Vous connaissez ma rigueur sur l'info. Voilà. Et moi, cet article, je l'ai lu parce que, hein, à l'instant, Sugar me dit, oui, t'as pas vu l'article. Je vois tous les articles. Je ne veux pas qu'on puisse me dire, dis donc, tu l'as zappé cet article, c'est parce que tu l'as pas lu. Moi, je lis tout. Donc, je l'ai lu, mais en fait, il n'est pas très clair. On ne sait pas bien ce qu'il faut faire. Voilà. L'OMS recommande d'attendre plus pour avoir pour avoir plus de quantité, mais rien sur la qualité. Je vois que Sugar, il a poncé cet article sur l'éjaculat, là. Je vois que tu l'as lu dans les détails. Effectivement, c'est ça. Donc, bon. Bon, hey, qu'est-ce que vous voulez? Réarmer nous, la France, ça ira bien. Hein. Ouais. Allez, hey, quelqu'un l'a dit dans le chat tout à l'heure, vous savez, on va résumer le truc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Hey, on a suffisamment de soucis comme ça, le monde est suffisamment anxiogène. Hey, faites-vous plaisir, les gars. Voilà. Là, pas besoin d'article là-dessus. Est-ce que tu vas réagir à l'audience de Nagui? Mais arrêtez d'écrire Nagui avec un Y, je n'en peux plus. À la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. C'est quoi? C'est une secte, les gens qui écrivent Nagui avec un Y? C'est une secte, c'est un club, il y a un droit d'entrée, il y a une carte de membre ou quoi? Ça vient d'où ça? Vous êtes concerté avant de venir sur le chat? Donc oui, pour la énième fois, on fera un react d'ici la fin de la semaine. C'est fou ça. Oui, Nagui avec un i, oui, bah oui. Ah, mon Dieu! Alors Artemis, vous en parlerez demain. Ouais, j'attends les articles de Artemis. Demain, on aura de beaux articles qui nous parleront de tout ça. Ok, bon, on va y aller, hein. Est-ce que tu as connu son émission La brosse à dents? La brosse à dents, sa dent. Non. Non, je regarde pas trop la télé, moi, en vrai. Ok. On y va? Allez, c'est parti. Et nos amis de YouTube, vous savez, qu'est-ce qu'on se mettra? Ah, merci. Merci beaucoup, Vince Mokturegal. Peut-être que pour le YouTube, on mettra peut-être Nagui, peut-être. Hein, Mathieu, on mettra Nagui, qu'est-ce qu'on pense? Mathieu, il gère la chaîne YouTube. Je pense que Nagui, ça peut intéresser les gens. Hein, j'évite de te mettre deux sujets, c'est beaucoup de sujets à chaque fois. On fait ça? Let's go. Bon, c'est parti. 3, 4. Pourquoi j'ai dit 3, 4? Non, 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 j'ai déjà dit 3, 4 tout à l'heure, j'ai déjà fait le bonjour et le sommaire. Non, 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 on y va. On y va pour le premier sujet. En ce moment, on commence systématiquement par l'Iran, hein, ça me semble essentiel, tu vois. On va pas commencer par le pipi. Putain, en plus, mon article est sur le pipi. Merde. On va pas commencer par le pipi, dit le gars qui a mis sa tablette sur l'article sur le pipi. Voilà. Évidemment qu'on va commencer par l'Iran. Hein? Avec des infos contradictoires. Oh, quelle surprise! Avec Donald Trump. Des infos contradictoires. Comment ça? Le mec dirait un truc le matin et le soir dirait l'inverse. Et le midi, il a dit autre chose. Oh! Comme c'est bizarre. Quelle surprise! Bon, bah, comme d'habitude, quoi. Donald Trump préparerait le retrait américain de la guerre en Iran. Bon. Ah, il dit c'est dans 3 semaines. Ouais, mais il y a 4 semaines, il disait c'est dans 4 semaines. Alors, enfin bon. Lisons, hein. Le président des États-Unis, article dans les Échos, veut se désengager du conflit sous 2 à 3 semaines et assure que l'Iran demande un cessez-le-feu. C'est même plus précis que la guerre va se terminer. Je vais me désengager du conflit. Mais ça veut dire que dans 2-3 semaines, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit passé, but de guerre ou objectif de guerre atteint, qu'on ne connaît pas tout, d'ailleurs, c'est toujours pas clair, il arrête. Okay. Washington exige au préalable que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Ah, il y a un préalable. Tout en cherchant à se décharger du problème sur les alliés. C'est pas très clair. Washington exige au préalable que le détroit d'Ormuz soit rouvert, mais du coup, si dans 2 ou 3 semaines il n'est pas rouvert, il s'en va ou pas ? Je sais pas. Et tout en se déchargeant du problème sur les alliés. Donc, s'il n'est pas rouvert dans 2-3 semaines, il s'en va et refile le bébé aux alliés, ou est-ce qu'il reste ? Bon, bah, on verra bien. Hein. Lisons l'article de Solveig Godluc pour Les Échos. Donald Trump crie quasiment victoire en Iran. Hein ? Quoi ? Le président des États-Unis qui doit s'adresser à la nation américaine ce mercredi soir. Donc c'était... Ah bah il a parlé là. Et oui, c'était dans la nuit là, donc il vient de parler. On va aller voir les dernières infos. Pour une importante actualisation au sujet du conflit, a laissé entendre que les tentatives de médiation entre les belligérants avaient abouti. Ah oui, il y avait cette... Trump a dit il y a quelques jours qu'il y avait une médiation en cours avec l'Iran. Voilà. Une guerre et une médiation en même temps. Voilà. Et l'Iran a dit pas du tout. Mais alors, non, il y a des petits contacts vite fait, quoi. Ok. Et donc, il a laissé entendre que les tentatives de médiation avec l'Iran avaient abouti. Ok. Le nouveau président du régime iranien... Ah oui, ah, ça c'est intéressant. Il a couvert d'éloges Massoud Pezeshkian. Vous dites, c'est qui c'est, c'est qui dans, c'est un gars de la région, pays du Golfe. Non, c'est un Iranien. C'est le nouveau président du régime iranien. Quoi ? Il n'a pas tari d'éloges sur un des responsables du régime iranien qu'il est en train de tapisser de bombes ? Mais comment ça ? Deux points, on voit les guillemets. Le nouveau président du régime iranien, bien moins radicalisé et infiniment plus intelligent que ses prédécesseurs, alors que tous les analystes disent justement qu'on est en train d'assister à une radicalisation du régime, vient de demander aux États-Unis d'Amérique un cessez-le-feu. Quoi ? Mais il n'y aura jamais demandé un cessez-le-feu. Mais en fait, le gars, il invente des infos, quoi. Le gars invente des infos. En même temps, il l'a écrit sur son réseau social Truth Social, qui n'est peut-être pas l'endroit où tu peux chercher des infos, en vrai. Alors, les échos s'interrogent. Peut-être force-t-il le trait ? Non, jamais Trump. Pour présenter sous un meilleur jour sa retraite d'Iran. Peut-être essaie-t-il de faire advenir par le verbe un résultat qui lui échappe. On va dire que c'est plutôt ça. Peut-être y a-t-il effectivement eu une percée diplomatique en dépit des postures intransigeantes. Peut-être. Dans un entretien à l'agence Reuters, Trump s'est félicité d'un complet changement de régime en Iran. Il fatigue. Un changement de régime en Iran ? Malgré tous les responsables du régime islamique iranien qui ont été tués, ils ont tous été remplacés un par un parce que le régime est construit comme ça. Incroyable. On va aller voir les dernières déclarations de la nuit, hein, bien sûr. On va aller voir les... Ça, c'était juste avant. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que là, on va aller voir son discours de cette nuit et on va encore avoir des choses incroyables. Mais on prend son temps. Hein. On est sur un plaisir de gourmet quand même, hein, les infos de Trump. Hein. Moi, je trouve que ça se déguste. Ça se déguste. Donc, voilà. Il s'est félicité d'un complet changement de régime en Iran. C'était pas son objectif, mais cela change la donne, a-t-il dit. Il y a de très fortes chances que nous trouvions un accord, car ils ne veulent plus se faire taper dessus. Pardon, hein, vous trouvez que je fais de l'anti-Trumpisme primaire, mais ils veulent plus se faire taper dessus. Le gars parle comme un enfant de 5 ans, quoi. Ou 4 ans. Ouais. C'est... Le point essentiel, c'est qu'ils n'auront pas d'armes nucléaires et ils n'en veulent même pas. Oui, bien sûr. Ah bah oui, alors ça c'est encore sûrement une info à prendre totalement premier degré, que l'actuel régime iranien n'a aucune intention de se doter de l'arme atomique. C'était une erreur. Ah non, en fait, on n'en a jamais voulu même. Waouh. Le nouvel ayatollah, Mortaba Ramenei, donc le fils d'Ali Ramenei, donc c'est là le changement de régime, hein, c'est le fils de l'ancien ayatollah, et pourtant farouchement anti-américain. Jusqu'à présent, le régime des Mollahs répète qu'il n'y a pas de négociation avec l'ennemi juré américain, tout juste des messages échangés. Les États-Unis n'ont officiellement pas obtenu de réponse à leur plan en 15 points, parce que les États-Unis aiment bien les plans, comme ça. Mardi, dans un appel téléphonique, Massoud Pezeshkian, donc c'est le fameux président iranien que Trump trouve formidable, a toutefois signalé au président du Conseil de l'UE, Antonio Costa, que l'Iran avait la volonté de mettre pour mettre fin à cette guerre, à condition d'obtenir 5 garanties. Ah. Ok. Donc là, effectivement, peut-être que je dis des bêtises et que l'Iran demande des choses toutes simples et qu'on a une paix dans deux jours. Alors, les conditions demandées par l'Iran. L'arrêt total des attaques israélo-américaines. Ok. Y compris contre les milices pro-iraniennes hors d'Iran. Ok. La mise en place d'un mécanisme pour empêcher des agressions futures. Attends, l'Iran veut obtenir un mécanisme qui empêcherait d'éventuelles frappes israéliennes et américaines dans le futur. Waouh. Le paiement des dommages de guerre. L'Iran veut que les États-Unis et Israël paient pour tous les dommages de guerre. Ah oui, oui, c'est... ça va se mettre en place dans pas longtemps, ça. La reconnaissance de la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Hormuz. Il a raison, Trump. Je pense qu'un accord est sur le point d'être signé. Dans sa communication matinale, Trump a ajouté une précision qui a certainement soulagé de nombreux pays alliés, au premier rang desquels les monarchies du Golfe. Nous envisagerons cette possibilité de cesser le feu lorsque le détroit d'Hormuz sera ouvert, libre et dégagé. Donc il dit à la fois que dans 2-3 semaines c'est terminé, et en même temps qu'il arrêtera l'offensive que si le détroit d'Hormuz sera libéré. D'ici là, nous allons anéantir l'Iran, ou comme on le dit, le renvoyer à l'âge de pierre. Ah non, je crois pas. C'est le même gars qui dit que le nouveau président iranien, c'est un gars bien, et qu'il y a des discussions de paix actuellement, et Trump il dit... on va anéantir ce pays. Mais ils sont combien? Mais ils sont combien, en fait? C'est ça, son secret, en fait? Ils sont plusieurs? J'y arrive pas. La veille, le leader du monde libre... oh là là, non, arrêtez. On va dire le président américain avait envoyé un tout autre message. Un autre message? Oh non, je... Oui, mais non, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a enclenché le compte à rebours pour un retrait américain de la guerre en Iran sous peu. Ah bah voilà. Il a expliqué que le blocage d'Hormuz par l'Iran n'était pas son problème. Autrement dit, que les troupes américaines partiraient même si le détroit n'était pas libéré. En fait, Trump, il dit toujours ce qu'il pense. Mais le problème, c'est que dans une même journée, il peut avoir plusieurs avis différents sur le même sujet. Et ça dépend à quel moment tu écoutes le message, en fait. En effet, il a exhorté les pays qui dépendent du gaz et du pétrole transitant par cette voie maritime à acheter aux États-Unis, malinx, ou bien faire preuve d'un courage tardif et aller prendre le pétrole dans le détroit. C'est pas compliqué la vie avec Trump. Mais hey, les gars, vous allez dans le détroit là, le détroit d'Hormuz. Vous y allez là. Et vous le prenez. Ha. C'est pas compliqué. Et puis sinon vous achetez du pétrole à nous. C'est pas compliqué d'être président. À un moment t'as un truc dans la tête, tu le dis. Ouais, tu te dis, ce serait bien ça, je vais dire ça. Dans une interview au New York Post, mardi, il a présenté les choses un peu différemment. Encore ? Oh mon... Merci Skyblast Live, merci Lewis. Je fais une petite pause, hein, je lis les subs parce que c'est, j'en peux plus moi. Merci Skyblast, merci Lewis, merci beaucoup. Ok, donc dans une interview au New York Post, mardi, il a présenté les choses différemment. Selon lui... Avec 11 000 frappes en 32 jours, le régime iranien a été tellement affaibli qu'il ne peut plus tenir Hormuz. Okay. J'ai anéanti le pays, il ne leur reste plus de force. Laissons les pays qui utilisent le détroit y aller et l'ouvrir. Bah attends, mais s'il a anéanti le pays et que l'Iran n'a plus de force, pourquoi il n'ouvre pas le détroit, lui? Puis il n'y a aucun risque. Donald, on te voit, tu racontes des bêtises. Ils n'auront pas d'armes nucléaires. Quand nous partirons, le détroit va s'ouvrir automatiquement. Non, c'est pas possible. Mais c'est un... Il met des mots au hasard, c'est pas possible. Il met des mots au hasard. Merci à mon slip, tu régales. Merci Rocktali. Comment ça va, Rocktali? Il y a quelques semaines, Donald Trump avait encouragé les armateurs à reprendre le trafic dans cette zone de guerre en vantant la couverture des risques assurantiels par les États-Unis. En mode, allez-y, tout va bien. Ils n'ont pas bougé. C'est bizarre. Les gens ne feraient pas confiance à Trump? Étrange. Car une seule mine suffirait à décimer un équipage et à provoquer une marée noire. Il a aussi promis des escortes, qui ne se sont jamais matérialisées. Oh bah ça alors. Et il a demandé aux alliés d'intervenir. C'est une masterclass, hein. C'est une masterclass. Jusqu'à présent, ces derniers sont abstenus. Une vingtaine ont monté une coalition des bonnes volontés, qui inclut la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée, l'Australie, le Canada, qui sont d'accord pour participer à la sécurisation du détroit, mais ils veulent d'abord que les armes se taisent. On parle plus d'opérations de déminage, quoi. Voilà. Trump s'y connaît en escorte pour le coup. Ouh, ça c'est. C'est validé. Le tacle est appuyé, mais il n'est pas sur la cheville, c'est validé. Trump a d'ailleurs expliqué à Reuters qu'il envisageait absolument un retrait des États-Unis de l'OTAN. Encore ? Mais il dit ça toutes les semaines depuis qu'il est... qu'il envisageait absolument un retrait des États-Unis de l'OTAN car ils n'ont pas été des amis que nous avions besoin d'eux. Ok. Tu parles des pays de l'OTAN à qui tu vends des armes non-stop depuis des dizaines d'années ? C'est ça, tu veux sortir de ça ? Ouais, bien sûr. On te croit, Donald. Les Émirats Arabes Unis semblent prêts à partir à l'attaque. Alors ça c'est nouveau par contre. Ah, enfin un truc nouveau. Les Émirats Arabes Unis semblent, ça c'est un vrai truc nouveau, prêts à partir à l'attaque. Vous savez que pour l'instant les pays du Golfe se font bombarder, ils prennent des missiles, ils prennent des drones iraniens, mais ils tapent pas quoi. Voilà. Et pourtant ils ont beaucoup investi dans leurs armées respectives. Hein. Alors il y a un petit manque d'expérience, mais il y a du matériel. Et il y a peut-être quelque chose de nouveau quoi. Les Émirats Arabes Unis semblent prêts à partir à l'attaque pour rétablir la circulation maritime. Alors ça, c'est un game changer. Enfin, je veux dire, soudain, le conflit prend une autre ampleur, quoi. Si les Émirats Arabes Unis, si l'Arabie Saoudite rentre dans le conflit, waouh, hein, c'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal. Mardi, les Émiratis essaient d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, même pour légitimer leurs interventions et obtenir des renforts. Les monarchies du Golfe ne voulaient pas de cette guerre, bah ouais. Mais elles redoutent encore plus que leurs protecteurs américains s'en aillent en leur laissant un détroit bouché et un voisin fâché. Le détroit d'Ormuz, fermé, bouché pour ces pays du Golfe, c'est économiquement un drame, une catastrophe, quoi. Donc voilà. Mais effectivement, vous avez un papier qui le dit, les Émirats Arabes Unis prêts à appuyer la libération d'Ormuz. Ça, c'est vraiment nouveau. Alors Trump, il a parlé cette nuit. L'article le dit au début, on va aller voir. Mais chaque chose en son temps, hein. Parce que c'est assez compliqué de comprendre ce qu'il dit... Donald, voilà, effectivement, il devait parler dans quel contexte, disait l'article. Je vous retrouve ça. C'était au milieu, frère. Dans quel contexte il parlait cette nuit? C'était quoi? C'est une conférence de presse? C'était quoi? Je suis en train de rechercher l'info, je ne l'ai plus sous les yeux. Je ne l'ai plus. Message au peuple américain? Vous êtes les meilleurs. Ok, allons chercher ça alors. Adresse à la nation. Oh, quel goût. Vous êtes une communauté. Vous êtes une communauté. Incroyable. Ok. Trump. Allocution. Vous êtes incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit ? Attention. Attention, parce que là, on a essayé de comprendre les différents messages, un peu contradictoires parfois. On est reparti sur des nouvelles infos. Bon, alors j'ai un article sur France Info. On peut y aller. Ouais. Attention, ça va être tout blanc, je pense. Hop, c'est tout blanc. Allez. Alors, donc ça, c'est cette nuit. Ce qu'il faut retenir de l'allocution de Donald Trump sur la guerre au Moyen-Orient. C'était cette nuit, c'était il y a quelques heures. Encore 2 à 3 semaines de frappe en Iran. Oh, ça, il l'avait déjà dit. Appel à prendre le détroit d'Ormuz sans les États-Unis. Oh, ça, il l'avait déjà dit. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, ah, mais t'es en train de nous dire les infos avant l'allocution. Bon, manifestement, il a rien dit de nouveau, en tout cas dans les grandes lignes. Alors, ah, c'est bien lui. Ah, il est en forme en vrai, hein. 1er avril 2026. Pourtant, c'est pas une blague, hein. Il est en forme, en vrai. Hein. Dans une allocution d'une vingtaine de minutes à ses compatriotes, mercredi, le président américain a considéré que les États-Unis étaient proches de remplir leurs objectifs. Mais quels objectifs? Ils n'ont jamais été définis. La fin du conflit en Iran n'est pas pour tout de suite. Lors d'une adresse à ses concitoyens prononcée mercredi 1er avril, Trump a annoncé poursuivre des opérations militaires contre l'Iran sans fixer de calendrier clair pour un désengagement au Moyen-Orient. C'est pour ça que les places financières ont rechuté, là. France Info résume les principaux éléments à retenir de son discours qui était très attendu par tout le monde. On va se régaler. Donc, encore 2 à 3 semaines de frappe contre l'Iran. Bon, bah ça, il l'avait déjà dit. Ah, l'âge de pierre. Il a reparlé de l'âge de pierre. Quand il a une bonne formule, il la recycle. Nous allons les frapper extrêmement durement au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Donc, l'Iran... Nous allons les ramener à l'âge de pierre auquel ils appartiennent. C'est limite raciste, hein ? Bon. En attendant, les discussions se poursuivent, a-t-il lancé. J'aime bien ce côté... Je discute avec les gars, c'est des bons gars, là. Mais on va quand même tous les tuer. Hein ? Waouh. Ça dit pas l'âge de pierre, oui. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas qui est ce pierre. un appel à prendre le détroit d'Ormuz. Alors, qui c'est qui dit c'est qui y va? Merci à Donkar. Le président américain a appelé les pays qui dépendent du détroit d'Ormuz à s'occuper de cette voie maritime stratégique par laquelle transite 20% du pétrole mondial verrouillé par l'Iran. Allez au détroit, prenez-le, protégez-le, servez-vous-en. C'est pas compliqué, en fait, la diplomatie et la guerre, regardez. Regarde. Le détroit, il est bloqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au détroit. Étape 1. Il a fait un paperboard ou pas? T'imagines? One. You go to the... Comment on dit Détroit? Comment on dit Détroit en anglais? C'est pas Detroit, comme Détroit, la ville de Détroit. Comment on dit? Straight? On dit straight? Ok, cool. On dit straight? Ok. Ok, you go to the straight. Ok? One, you go to the straight. Two, you take the straight. Ok. Three, une fois que tu attaques, une fois que tu attaques, you protect the straight. Four. Servez-vous-en. You serve yourself. Voilà. Ok. Thank you, Donald. Donc c'est pas compliqué en vrai. C'est vrai. Les autres ils mettent vraiment pas de bonne volonté dans l'histoire. Moi, je suis d'accord avec lui. Les autres, c'est vraiment des moins que rien. Mi-mars, Trump avait appelé plusieurs pays, dont la France, à intervenir pour aider son pays à débloquer le détroit. Donc le mec, il provoque une guerre, il déclenche une guerre, et après, il dit aux autres, Eh oh vous avez... Je dois faire du one-man show, moi, en fait. Ah, Antoine, oui, mais j'ai vu ton message, c'est adorable. Antoine est dans le chat, il me dit, salut Samuel, c'est moi qui t'ai contacté sur LinkedIn pour Tours. Je vais aux assises du journalisme à Tours bientôt. Triste que tu n'aies pas le temps. Je voulais avoir des conseils valo. Tu régales, Antoine. En fait, Antoine... J'arrive, mon train arrive à Tours à l'heure où débute ma conférence. Bon, il se trouve que je crois que j'ai juste la rue à traverser. Je fais une conférence, après j'enchaîne avec une deuxième conférence. Et après c'est pareil, le retour c'est pareil parce que je rentre sur Paris dans la foulée. Je suis désolé, mais bon, peut-être qu'on aura d'autres occasions. Et donc, oui, je disais, je dois faire du one man show. Attends, le gars il provoque une guerre. Voilà, il fout le truc à feu et à sang, le détroit il est tout bloqué, et après il se retourne vers les gars qui n'ont rien à voir dans l'histoire, et eh donc je parle des alliés de l'OTAN, de la France, tout ça. C'est quoi ce bordel? Vous allez me débloquer tout ça, hein? Hein, quoi? Nous?
Parce que, mais oui, bien sûr, moi, partie,
mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Mais j'ai rien fait, moi. Dont la France à intervenir pour aider son pays à débloquer le détroit. Espérons que la Chine, chinoise, mais quoi, qui veut lui? La France, bah, allez, bien sûr. On a qu'un porte-avions, le deuxième, il n'est pas construit avant X années, on va l'envoyer dans le truc, il va couler. La Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité. Si le pays est totalement décapité, Donald, il n'y a plus aucune menace. Vas-y, fais-le. Alors, tu prends un optimiste, tu prends un petit bateau gonflable, tu y vas et tu nous libères le truc. Une semaine plus tard, 22 pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, ont dit prêts à contribuer aux efforts nécessaires pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Mais on l'a vu tout à l'heure, une fois que les armes se seront tues, donc plutôt pour déminer, quoi, sécuriser. Trump a d'ailleurs promis mercredi qu'il n'abandonnerait pas les alliés du Golfe, nommément Israël, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et Bahreïn. Attends. Il a dit que dans 2-3 semaines, il s'en allait. Et là, il dit qu'il ne va pas abandonner les alliés. Mais si dans 2-3 semaines, c'est toujours le bordel, qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, il n'y a rien qui va. Alors, vous vous inquiétez de la flambée des prix du carburant? Vous inquiétez pas, c'est un problème de court terme. En fait, vous vous inquiétez pour rien. Hein. Trump. Au fil de son discours, le dirigeant américain n'a évoqué que rapidement un sujet au cœur des préoccupations des Américains, notamment l'envolée des prix de carburant du fait du conflit. Il s'agit d'un phénomène de court terme. L'économie américaine n'a jamais été aussi forte. Donald, ça va se voir. Ça va se voir. On sait que l'inflation explose, que les prix explosent. On sait que ta guerre commerciale, elle a fait flop parce qu'en fait, la Cour suprême, elle a dit « Mais c'est pas du tout légal, votre truc, là. Fallait l'accord du Congrès. » On sait bien qu'il n'y a rien qui va. Arrête, Donald. C'est... Tu mens. Tu mens. le chef d'État populiste a répété que les investissements affluaient et a soutenu à tort que son pays ne connaissait aucune inflation. Elle s'élevait à 2,4% en février, selon les données du gouvernement. Cette allocution intervient sur fond de chute de la popularité de Trump en matière d'économie. La proportion d'Américains faisant confiance à leur président pour gérer l'économie nationale a reculé à 31% dans la dernière édition d'un sondage pour CNN. Un plus bas dans sa carrière politique. Un pourcentage qui a baissé de 8 points en 3 mois. Voilà. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des marchés après son allocution ? Une hausse du prix du baril du Brent. Alors la veille, quand Trump avait dit « dans 2-3 semaines, c'est terminé », le prix du baril de Brent avait chuté très fort. Il a été monté très haut. Il avait chuté, il s'était rapproché des $100 le baril. Et là, et après ce discours, il est reparti à la hausse. Donc ça veut dire que je ne suis pas le seul à ne pas faire confiance à 100% dans ses propos. Alors on l'est. Et les bourses, les places boursières. Hein. Asiatiques ont viré au rouge, puisque c'est celle qui était ouverte quand Trump a parlé. Après, ouvert en hausse, l'indice Nikkei a lâché, blablabla, 82, blablabla, Séoul, ça chute, blablabla, Sydney, ça chute, blablabla, etc. Vous avez compris le truc, quoi.
Ok, intéressant.
Alors, moi, je pense à la personne tout à l'heure qui m'a dit, mais Samuel, tu lis des anciennes infos. Hein. Il a parlé cette nuit, ça n'a plus rien à voir. Hein. Bon, en fait, il dit la même chose, quoi. Enfin, ça dépend à quel moment tu l'écoutes, c'est toujours le problème, quoi. Allez, je vous lis, on enchaîne. On enchaîne avec le coup de la guerre. Tiens, je vous remets le sommaire d'ailleurs. Tchac. Pour info, il y avait cette nuit, me dit Argonaut 31 sur le plateau de BFM. Tiens, tu regardes les chaînes d'info la nuit, toi. Waouh, bravo. Un spécialiste en géostratégie qui a expliqué que, contrairement au discours américain, les États-Unis sont au contraire très dépendants du détroit d'Hormuz pour le pétrole, les fertilisants, agriculture, je vous en parle à la fin, mais je vous parlerai de pipi, le soufre, l'hélium, etc. Ok. Je voudrais saluer Spiricool qui nous fait profiter de son verbe spirituel et de son esprit. 9 mars. Oh, tu viens pas souvent, toi. Salut les gauchistes, comment ça va? C'est son seul message du stream ce jour-là. C'est donc... Salut Spiricool. Alors, donc, tu reviens un mois plus tard, le 2 avril. Avec une petite variante. Bonjour les extrémistes de gauche, vous allez bien? Le mec est plutôt chaleureux en vrai. Parce que souvent moi je reproche souvent de ne pas dire bonjour. Voilà. Alors c'est pas un vous noterez que c'est pas un copier-coller de son message d'un mois auparavant. Il y a une petite variation. Alors, tu es passé de gauchiste à extrémiste de gauche. Enchaîné avec un 10h16 à soutien à toi Donald, ton mate. Donc, et enchaîner avec un France Info, c'est la pensée unique de la gauche. Ok, merci Spiricool. Donc, blague à part, Artemis 2, oh, on va se mettre des petits articles demain, promis. Demain matin, on en parlera. Revenons sur Trump plutôt. Hein. Ah, la salle de bal a été suspendue par la justice? Ah, ça, je savais pas ça. C'est vrai ou pas? La salle de bal, ces travaux de la salle de bal à la Maison Blanche, ça a été suspendu par la justice? Ah, ça, j'ai pas vu passer ça. Ok. Je me demande quelle heure il est sur l'horloge de l'apocalypse, vu qu'il est déjà minuit, moins 85 secondes, début janvier. Après, Lucie Liberté, moi, je suis assez optimiste sur l'humanité, moi. C'est mon fond. J'ai un fond optimiste, moi. Je me dis qu'on est capable des pires dingueries, mais aussi des plus belles choses. Et je crois au génie de l'humanité, moi. Vous voyez les spiricoles, là, tout à l'heure dans le chat. Vous voyez, ça ne vous donne pas espoir? Moi, ça me donne espoir. En vrai, moi, j'ai espoir, moi. J'ai espoir. Je pense que dans leur grande majorité, les humains sont des gens raisonnables. Mais voilà. Si, 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 si. Là, on lit les dingueries, nous. L'actualité, c'est les dingueries. L'actualité, c'est les dingueries. C'est ce qui se passe. C'est les dingues du monde. Voilà, c'est ce qui va pas. Mais il y a beaucoup de choses qui vont très bien. Ah, un juge a rappelé que le président n'a pas le droit de modifier la Maison-Blanche sans que ce soit validé par le Congrès ou une assos. Ok. Ah, je savais pas. Oui, on fera la réaction de l'audition de Nagui le mois d'ici la fin du week-end. Faut que je trouve un moment. Parce que c'est un gros morceau. Ok. Et celle d'Autocar et Sébastien? Non. J'ai regardé. C'est pas fou en vrai. Alors maintenant, je vais vous parler du coût. Du coût de la guerre. Parce que ça coûte des sous. Dans le Parisien, cette fois, on était avec Lacroix, l'article précédent. Salut, Pingouin Positif. On va parler du printemps de l'esprit critique demain. Et puis le thème cette année, c'est l'argent. L'esprit critique et l'argent. Et Dieu sait si on en a besoin, notamment. Alors. Dans le Parisien, on nous parle du prix faramineux de la guerre en Iran. Les chiffres sont impressionnants. Merci Eolia. Merci Talopop. Merci Ardankar. Les conséquences économiques du conflit, inflation en tête, touchent le monde entier. Merci petit Nico pour ton message qui est adorable. Article d'Anissa à midi dans le Parisien. Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. Cette semaine, les économistes du FMI ont remodelé le proverbe avec la guerre. Toutes les routes conduisent à des prix plus élevés, ont-ils écrit. En France, l'inflation a bondi d'1,7% en mars, après une hausse de 0,9% en janvier. Puis les taux d'intérêt qui sont en train de monter, de monter, de monter fort. Là. J'espère que vous n'avez pas prévu d'emprunter de l'argent à la banque pour un projet immobilier, parce que c'est en train de... En France, l'inflation a ainsi bondi de 1,7% après une hausse de 0,9% en février. Nous sommes encore loin de l'inflation à 6% comme en 2023, mais ce spectre a fait flamber les taux d'intérêt des dettes de la zone euro. Celui des dettes françaises atteignait lundi 3,73% un sommet. Du coup, le coût de notre dette augmente. Merci Donald. Ça va faire mal aux finances publiques. Les taux du crédit immobilier vont augmenter. Voilà, si vous avez un projet immobilier. C'est pas bon signe pour la reprise du secteur. Ah, Quick me dit, j'ai signé hier ma future maison. Ouf, bien vu, bien joué. Ça va faire mal aux finances publiques. Le taux du crédit immobilier vont augmenter. C'est pas bon signe pour la reprise du secteur. Explique Stéphanie Villers, conseillère économique au cabinet de conseil PwC. Si l'envolée des prix du pétrole ne fait pas encore tache d'huile, pétrole, tache d'huile, excellent. Les économistes s'y attendent pour les prochains mois. Les produits alimentaires de base, c'est parti, risquent aussi de grimper car les matières agricoles ont besoin d'énergie pour être récoltées. Et il y a des matières fossiles dans les engrais. Les gars, les pâtes, les trucs, là, tout va nous coûter plus cher. Merci Donald. Plus le blocage du détroit d'Ormuz durera, plus le conflit pèsera sur les cours mondiaux. Il flambe aussi à cause du manque de visibilité. Pourtant, avec le président américain, de la visibilité, on en a. Hein. Donald Trump le sait, c'est sans doute pour cette raison qu'il a évoqué mardi soir une fin de conflit d'ici 2 à 3 semaines. L'annonce fiable ou non a immédiatement apaisé les marchés financiers. Puis après, il a parlé cette nuit, et puis les marchés financiers sont repartis à la baisse. Elle visait aussi à rassurer les Américains, mi-fatalistes, mi-héberlués, d'être percutés par les soubresauts d'une guerre hasardeuse. Il y a la crevette Kitwer qui dit « Achetez maintenant, dans 30 ans, le seul moyen d'avoir une maison, ce sera en gagnant un challenge de MrBeast. » Déjà aujourd'hui, hein, c'est fou hein, les prix. Hein. C'est incroyable. Mais peut-être que ce sera encore pire. Après, on va être de moins en moins nombreux en France. La population va doucement baisser avec la démographie, donc je sais pas, ça peut impacter à la baisse les prix de l'immobilier, je sais pas. Parfois je me dis ça. En tout cas, c'est déjà turbo cher. Mardi aux États-Unis, le prix de l'essence a dépassé la barre symbolique de 4$ le gallon. Un gallon, c'est 3,79 litres. Alors c'est moins cher que chez nous l'essence, hein. Ben, c'est justement pour ça ils sont habitués à un carburant qui est pas cher du tout. Contre 3$, donc c'est quand même 25% de plus avant le 28 février, selon les données de l'association automobile américaine. Le sujet est ultra sensible dans un pays où la voiture est quasiment indispensable, peut coûter politiquement à Trump. Les Américains l'ont élu pour qu'il soutienne leur pouvoir d'achat. Et Trump, il n'a eu de cesse de dénoncer la hausse des prix et l'inflation sous Biden. C'est un petit peu embêtant que ça se poursuive sous son mandat, quoi. Il se retrouve avec des hausses de taux d'intérêt. Ils sont encore plus dépendants que nous de ces variations car ils n'empruntent pas uniquement pour leur logement. C'est un pays qui consomme à crédit. Ah ouais. Donc l'augmentation des taux les pénalise dans leur quotidien. C'est dans ce contexte que... Ah oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, beaucoup plus que chez nous encore, les étudiants empruntent. Hein, beaucoup d'étudiants empruntent pour leurs études, par exemple, pour ne prendre que cet exemple. C'est dans ce contexte que le Pentagone aurait demandé une rallonge de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars pour financer la guerre en Iran. Hein, une somme colossale, près du quart de l'ensemble du budget annuel de la défense américaine, qui s'ajoute aux frais d'une opération déjà clivante. En plus... Les démocrates, eux, manquent de s'étrangler. Trump et les républicains ont promulgué les plus grandes coupes de l'histoire à Medicaid, c'est l'assurance maladie, à SNAP, l'aide alimentaire. Hein, sans compter de toutes les coupes dans les programmes humanitaires à travers le monde. Hein, hein, et parce que la nation ne pouvait tout simplement pas se le permettre. Donc il n'y a pas d'argent pour l'assurance maladie, il n'y a pas d'argent pour l'aide alimentaire, mais par contre, pour les bombes, il y en a. Maintenant, l'administration Trump cherche 200 milliards pour poursuivre leur guerre illégale et mal planifiée contre l'Iran, fustigent les élus démocrates. Déjà, les 6 premiers jours de guerre ont coûté un peu plus de 11 milliards à la défense américaine. Depuis, le Pentagone n'a plus communiqué à ce sujet. C'est les 6 premiers jours, hein, on est à un mois. Depuis, le Pentagone n'a plus communiqué. Un site internet, Iran War Cost Tracker, affiche en temps réel le coût supposé de l'opération. Sous le compteur figure une pétition pour demander aux élus de bloquer les fonds supplémentaires destinés à une action militante non autorisée, militaire, pardon, non autorisée en Iran. Alors ça, c'est pour les... Ça me donne soif, moi. C'est... Vous savez, tant qu'il reste du café, je vais m'en faire un. Bientôt, il n'y en aura peut-être plus. Après, je vous lis le coût pour les pays du Golfe. Là, c'est que pour les States. Bougez pas. Hydratez-vous, c'est important de s'hydrater. Bon, finalement, comme on parle des États-Unis, j'ai pris un coca. Alors, les pays du Golfe. Les riches pays pétroliers du Golfe paient un tribut bien plus important. L'ONU a évalué le coût du conflit à 186 milliards de dollars pour les pays arabes, perte stupéfiante, souligne le rapport publié mardi. L'économie arabe ne repose pratiquement que sur un seul produit. Alors pour certains, il y a le tourisme qui est venu aussi très fort ces dernières années. Mais le problème, c'est que le tourisme, en ce moment, c'est tu as super envie d'aller passer une semaine à Dubaï en ce moment. Tu vois. Les événements récents prouvent qu'elle n'est pas viable, cette économie, alerte le secrétaire général adjoint de l'ONU, Abdallah al-Dardari. Pourtant, il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Le Golfe est un producteur clé d'engrais. C'est là où les agriculteurs, par exemple, pourraient être touchés. Dans d'autres pays, dont un tiers transite par le détroit d'Ormuz. La guerre en Iran perturbe les chaînes d'approvisionnement de composants de base comme l'urée, qui a augmenté de 40% depuis mi-février. Ça reparle de pipi, hein ? Si cette tendance se poursuit, elle aura des répercussions défavorables sur les rendements des cultures et les prix alimentaires risquent de grimper en 2027. Voilà. Seul Israël semble épargné. L'explication se trouve sous la mer Méditerranée grâce aux 3 gisements de gaz naturel offshore qui alimentent environ 70% de la production électrique du pays. L'État hébreu a atteint un niveau d'indépendance énergétique enviée. Ça, je ne savais pas. Face au risque de frappe de missiles, 2 de ces gisements sont à l'arrêt. Ils fournissaient l'Égypte et la Jordanie. Le troisième au sud continue de fonctionner. Il couvre presque entièrement la consommation intérieure. Ça, je ne savais pas que Israël était quasi indépendant en termes d'énergie grâce au gaz naturel. Ok. Selon certains médias israéliens, Amman, c'est la Jordanie, et le Caire, l'Égypte, ont demandé à Israël de reprendre ses exportations, mais sont heurtés à un refus. Depuis samedi, l'Égypte a imposé un couvre-feu. Dans plusieurs pays de la région, on limite l'activité économique pour limiter la consommation d'énergie. Les commerces, les restaurants, les centres commerciaux sont fermés dès 21h en semaine pour freiner une fracture énergétique qui a plus que doublé. Donc, il y a cet impact sur l'économie américaine, l'économie des pays du Golfe, et puis on l'a déjà aussi évoqué aussi les pays européens, par exemple. Hein. Merci Kai7512 pour les petits compléments sur ce qu'a dit Trump cette nuit. Je vous lis, et on enchaîne. Ils cherchent à diversifier leurs revenus via le sport aussi. Ouais, MMG, tu as raison. On parle des pays du Golfe. Hein. Tout à fait. Le prix du carburant aux États-Unis a gavé augmenté aussi. Ouais. 25% d'augmentation d'après l'article qu'on vient de lire. Salut, merci Kai pour ton message. Le sport, ça leur fait des revenus? C'est plutôt des dépenses de soft power? Ouais, oui, Sugar a peut-être pas tort. Après, au niveau des. Je me demande si au niveau des investissements sur ou du PSG, par exemple, il y a eu. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie du sport, vous le savez, mais je crois avoir lu que dans un premier temps, c'était du soft power. Ça leur a coûté plus que ça leur a rapporté, mais au vu des résultats du PSG et au vu de la manière dont c'est géré en termes de marketing, de produits dérivés, de maillots, de droits, aujourd'hui, peut-être que ça rapporte le PSG, non? Peut-être aujourd'hui, non? Parce que, quand même. Peut-être non? Aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Peut-être pas au début, hein. Moi, j'ai vu que c'était un des clubs, sinon le club le plus rentable au monde. Hein. C'est vraiment. Ça produit de la richesse, quoi. Ah, Ninja Ardent me dit oui, le PSG est le club le plus rentable. Ah, Clama Coquine me dit le PSG perd de l'argent tous les ans. Ah. Pas du tout rentable, me dit Hugo. En direct, mais en indirect, avec l'influence. Okay. Ah, je taffe au PSG, me dit King Posama. Et on commence tout juste à être à l'équipe. Ok, d'accord. Ok, donc ça gagne pas encore d'argent. D'accord. Chiffre d'affaires record de 837 millions d'euros pour la saison 2024-2025. Oui, mais MMG, ne fais pas comme Charles Laloncle, ne confonds pas chiffre d'affaires et bénéfices. Je sais bien que tu ne te confonds pas, toi. Ok. Comment s'appelle le président du PSG déjà? Nasser, voilà. Donc Nasser est dans le chat, hein, c'est King Posama qui dit je taffe au PSG et on commence tout juste à être équilibre. Nasser El Khelaïfa, voilà. Il est là. Merci monsieur le président. Petite place en loge. Je suis pas un grand spécialiste, mais je pense que mes enfants seraient peut-être contents. N'hésitez pas. La belle, hein, là, avec les boissons, les softs à volonté, là. Hein. À côté de Sarko? Non, ça va. Non. Non, ça va. Alioune nous dit qu'on gagne une Ligue des Champions, on gagne beaucoup d'argent, mais il faut regagner pour garder le positif. Ok. Allez, périscolaire, très important ça. J'aurais dû vous en parler plus, le périscolaire. Le périscolaire, le scandale du périscolaire, c'est un sujet dont je veux vous parler depuis le début. Et vous, les habitués, vous savez que je vous ai pas lu d'article là-dessus. Parce que je trouvais que les articles n'étaient pas fous. C'était à chaque fois sur une toute pas partie du sujet. Ça manquait de recul, ça manquait de globalité. C'est pour ça que j'aime la presse écrite. C'est que justement... la presse écrite, c'est un média un peu plus lent que les autres, on va dire que les chaînes d'info continuent, qu'Internet, tout ça, même la télé, ça prend le temps, ça fait des enquêtes, des reportages, ça prend un peu de recul, ça donne une vision comme ça, un contexte. Et là, je trouvais que ça manquait d'articles comme ça. Tu vois, la Star dit par exemple, bah, à Paris, bah non, justement. Hein. Penser que ça n'existe qu'à Paris, bah, si je te dis, bah, les problèmes dans le périscolaire, les agressions sur les enfants, c'est qu'à Paris, tu vas dire, bah pourquoi? Tu vois, bah non, bah l'humanité nous dit, bah non, c'est pas qu'à Paris, par exemple. Voilà, ça manquait justement un peu de recul et l'humanité nous fait ce dossier, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, la une de l'UMA, c'est ça. Périscolaire, des clés pour sortir de la violence, parce qu'il y a violence sexuelle, mais pas seulement. Les signalements pour viol, agression sexuelle, atteinte à l'intégrité physique ou morale. Des enfants se multiplient, ça vous le savez, vous l'avez vu passer dans l'actu. On parle beaucoup de Paris, mais vous imaginez bien que ce n'est pas qu'à Paris. Prévention, formation, réforme du recrutement du personnel peuvent contribuer à protéger les plus jeunes. Donc non seulement l'UMA nous fait un peu un panorama, voilà. Amandine me dit, je suis à Lyon et il y a aussi des affaires. Mais en plus, il y a des pistes de comment on pourrait régler le sujet. C'est chaud, ça. Il y a Anne Bolin dans le chat qui dit bonjour tout le monde. Les voisins de ma belle-sœur font hurler leurs enfants en permanence et ça sent fortement la violence. Elle a fait des signalements à l'école, à la police, rien n'a été fait. Elle s'est même fait menacer par son voisin. Quoi faire ? Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Parce qu'après, les drames, et puis les voisins après qui disent « Ah ouais, mais alors ça, j'entendais des cris, mais je savais pas quoi faire, et où j'osais pas, et puis ça me regarde pas, et j'aurais dû. » Et là, on a quelqu'un, tu me dis, qui fait et qui alerte, mais il se passe rien. Ouais, c'est chaud. Ouais. Quelqu'un dit assistante sociale, peut-être ? Là, tu parles d'école et de police, les services sociaux, peut-être ? C'est chaud, là. Oui, Hugo me dit l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Ok. Lisons. Le dossier d'Humanité. Périscolaire, la grande défaillance. La multiplication ces derniers mois des affaires de violence dans les structures d'accueil hors du temps scolaire, le périscolaire, lève le voile sur un secteur en déshérence. Dans le chat, certains rappellent qu'il y a un numéro aussi pour l'enfance en danger. Voilà. À qui on confie donc le périscolaire des missions, des responsabilités capitales, tout en le privant des moyens de les assumer. Ouais, c'est le 119, c'est ça. Donc, l'Humanité nous dit, c'est bien beau, comme pour l'aide sociale à l'enfance d'ailleurs, il y a un problème de moyens. On découvre ce que l'on n'a pas voulu voir pendant des années. Hein. Le constat est posé par Barca, qui ne donne que son prénom, du collectif MeToo École, qui rassemble des parents souhaitant briser le silence sur la violence périscolaire. On imagine bien que ça n'a pas pop comme ça. Hein. Son discours est aujourd'hui relayé par nombre d'acteurs du secteur au fil des mois, de révélations en accusation, de plaintes en procès. Le sujet est devenu un scandale tel que plus personne ne songerait à nier la réalité des atteintes diverses, du viol au... violence verbale, en passant par les agressions sexuelles, les brutalités, les violences psychologiques commises sur de jeunes enfants, là où précisément ils devraient jouir d'une sécurité maximale. À l'école, lors de ces temps hors des cours qu'on rassemble sous le nom d'activités périscolaires. Périscolaires, c'est la garderie, c'est les activités à côté de l'école, c'est même c'est la cantine, ai-je appris dans l'article également. Merci à Anna Mananas, merci à Olia. Un autre collectif qui s'appelle SOS Périscolaire propose sur son site une carte interactive qui tente de recenser tous les cas depuis 2021 et ont fait l'objet de signalements. Ça va des simples négligences jusqu'aux atteintes sexuelles. Avec un recul de 5 ans seulement, rares sont les départements épargnés. Voilà. Hein, quand on lit la presse de ces dernières semaines, on a l'impression que c'est quasiment qu'à Paris. Parce qu'à Paris, c'est devenu aussi un sujet politique, municipal. Dans la campagne, certains en ont beaucoup parlé. Et je trouvais ça un peu bizarre. Bon, là, vous avez un collectif qui dit ben, y en a partout. Certes, les cas de violence sexuelle demeurent largement minoritaires, mais les données sont rares, renseignent peu sur la profondeur du phénomène. Tout au plus, permettent-elles de constater que, pour une simple raison mathématique, les grandes métropoles concentrent le plus de cas recensés. À Paris, l'affaire a pris une telle ampleur depuis l'an dernier, au fil des signalements, des premières réponses faibles, voire défaillantes, apportées par les institutions, qu'elle est devenue l'un des enjeux principaux des dernières municipales. Emmanuel Grégoire, qui est le nouveau maire, a tenu à montrer sa volonté de prendre le taureau par les cornes. Et effectivement, lundi 30 mars, dès le lendemain de sa désignation par le Conseil de Paris, le nouveau maire a rencontré des représentants des parents, dont la Fédération des conseils des parents d'élèves de Paris, les deux collectifs qu'on vient d'évoquer. La veille encore, plus de 700 parents des 7e et 15e arrondissements de la capitale lui avaient envoyé un courrier, 700 parents, dressant la liste de 6 écoles où des signalements et ou des plaintes pour des faits de violence, notamment sexuelle, avaient été déposés, exigeant d'établir les responsabilités à chaque niveau de la chaîne de décision. Parmi ces cas, celui devenu emblématique d'un animateur au centre d'une affaire d'abus sexuels dans une école du 7e arrondissement. Ok. Et qui a été déplacé dans une autre école du 15e. Où il a de nouveau fait l'objet d'un signalement. Waouh. Cela, bien que depuis décembre 2025, la ville de Paris a explicitement interdit que de tels procédés soient mis en œuvre. Le maire de Paris s'est engagé à faire du périscolaire la priorité absolue des premières semaines du mandat, annonçant une reprise en main sur tout le processus administratif. Hein. Un conseil de Paris, parce qu'en fait, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai lu dans un autre papier, le périscolaire dépend de la commune. Hein. Et pas du ministère de l'Éducation nationale, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle là du maire. Hein. Les gens qui connaissent un peu le sujet, est-ce que vous pouvez, c'est ça, hein. Ça dépend de la municipalité. C'est ça. C'est ça. Donc le maire de Paris s'est engagé à faire du périscolaire la priorité absolue des premières semaines du mandat, annonçant une reprise en main du processus. Un conseil de Paris extraordinaire doit être consacré au sujet dès la mi-avril. Et la Convention citoyenne sur le temps de l'enfant, tiens, c'est vrai, j'avais oublié ça, lancée en 2025 à la demande d'Emmanuel Macron, doit formuler des recommandations aux élus parisiens en juin. Okay. Tout cela ayant pour but d'apporter de vrais changements dès la rentrée de septembre. Au moins faut-il reconnaître à la capitale, au cœur du scandale et sous la pression des parents inquiets, de mettre le sujet sur le dessus de la pile. Pourtant, Paris est un révélateur de ce qui se passe ailleurs, dit Barca. Barca, c'est quelqu'un qui parle depuis un collectif, la MeToo École, qu'on a évoqué au début de l'article. Pour elle, pas question de se contenter de pointer du doigt quelques individus déviants dont il suffirait de se débarrasser pour que tout aille mieux. Hein. Voilà, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé plus tôt, parce que dans les articles qu'on a lus ces dernières semaines, c'était « Ah voilà, il y a le mec là dans telle école, c'est ce qu'on vient de se dire à l'instant, mais comment ça se fait? Il n'a pas été sanctionné, il a été remis dans une autre école, mais qui sont ces gens ?» Et voilà. C'est pas qu'une question d'individu, c'est un truc, on voit bien que c'est un problème lié au système, systémique. Attendez, quelqu'un sonne à mon interphone là. Personne à l'adresse, normalement, bougez pas. C'est mon amoureuse. C'est mon amoureuse. C'est une visite surprise de mon amoureuse. Et peut-être de Pio. C'est Charles qui arrive ? Non, c'est moi qui vais venir chez Charles. On va peut-être voir Pio. On va voir Pio ?
Moi, je suis sans Pio.
Ah, il n'y a pas Pio. Qu'est-ce que... C'est une visite surprise ?
Oui, je suis.
Elle existe vraiment ? Je suis vraiment marié ? Les gens, ils pensent que tu n'existes pas parce qu'on ne te voit jamais. Viens montrer ta main. Ça pourrait être une main en plastique, mais... Et en plus, elle a 5 doigts. Ça va ?
Tu m'apportes des trucs ?
Non, je suis...
Ah, c'est gentil. Bah, attends, je coupe le micro. J'arrive dans 10 secondes. J'arrive. C'est moi. Monsieur Manhattan, tu prends 600 secondes. C'est pour moi. Voilà, c'est pas respectueux. Voilà, moi j'aime beaucoup l'humour. Mais alors, les épouses, les amoureux, ça se respecte. Et hop, tu prends un Théo. Ciao. Pour déconner. S'il y a bien un truc auquel il faut pas toucher, c'est Hélène. Il y en a d'autres ? Tiens, je remonte le chat. Tiens, je vais faire ma police. Tiens. Il y en a eu d'autres ? Je remonte tout le chat. Merci Nizaris. Il a pris pour d'autres, mais je balance pas. Ben, les autres, ils vont prendre aussi. Ben. Le bras fake. T'es pas un bras fake. Yael cringe, c'est pareil. T'es pas respectueux vis-à-vis de mon épouse. Hop, tu prends un Théo. Ah, les épouses, c'est respect absolu. C'est zéro humour là-dessus. Ah, j'ai pas d'humour sur ça, moi. Je reçois trop de messages violents sur les sujets. La limite, c'est la famille, en fait. Voilà. Si un jour je vais en justice, ce que je vais faire dans pas longtemps, je pense, sur les gens qui racontent des bêtises sur Internet, là, c'est notamment parce qu'en fait, je ne veux pas que mes enfants, ils sont petits encore. Oui, les épouses de tout le monde, quoi. On ne touche pas la famille, quoi. C'est que moi, aujourd'hui, mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tu m'étonnes, 9, 6 et 1 mois, ils ne regardent pas les réseaux. Nous qui débattons souvent de la question de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais un jour, ils vont être en âge de lire tout ça, quoi. Les gens qui disent que je suis un voleur, que je suis un agresseur, que je suis un pédophile, c'est des choses que je lis tous les jours. Hier, par exemple, pédophile. Voilà. Donc, un jour, mes enfants vont lire ces trucs-là. Et ça commence à me fatiguer un peu, en fait. Donc là, je vais m'en occuper dans pas longtemps. J'ai pris des dispositions pour que ça cesse, en fait. Parce que ça, je veux pas qu'un jour mes enfants soient. Moi, je fais le zinzin, je fais le dingo, ça m'amuse. Et puis, je suis habitué. Ça fait quand t'es présentateur, quand tu fais ce métier, ça fait des dizaines d'années que les gens t'insultent. T'es habitué. Mais en fait, moi, je veux pas que ma famille un jour en souffre, quoi. Et je me mets dans la perspective où un jour mes enfants, ils vont lire ça. Voilà. Et là, en fait, ça met très en colère ça. Donc là, je vais m'en occuper. Voilà. Donc, d'où le pas d'humour sur ce sujet-là. Voilà. Quoi ? Voilà, petite parenthèse. Stop. Donc, ces gens vont recevoir des petites convocations dans pas longtemps. Voilà. Hein ? Voilà. Puis ça va calmer, je pense que ça va un petit peu calmer. Et on peut pas raconter n'importe quoi sur Internet. Faut arrêter. Il faut que les gens apprennent. Faut qu'il y ait un peu de maturité qui se développe par rapport à ces outils, quoi. Voilà. Toi, par exemple, Tom, là, la blague que tu viens de faire, s'il n'y avait pas de capa, bah, tu prendrais une convocation judiciaire dans pas longtemps. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, ça va être comme ça. Je suis fatigué. Et puis surtout, la perspective que mes enfants lisent ça un jour, ça m'énerve, en fait. Donc, on va s'en occuper. Tac. Ferme la parenthèse. Alors, on était où ? Ah, on était sur le périscope. Tiens, on était sur les enfants, justement. Voilà, on était sur les enfants. Voilà. Et donc, la personne de la sauce, là, du collectif, elle dit c'est pas qu'une histoire de quelques individus déviants. C'est trop facile, cette analyse. Hein, dont il suffirait de se débarrasser pour que tout aille mieux. On voit bien qu'il y a un problème. Peut-être dans le recrutement, par exemple, la qualité du recrutement, les vérifications, tout ça. L'origine de ce dysfonctionnement, c'est que le périscolaire a toujours été secondaire, que ce n'est ni complètement l'école, ni une priorité politique. Et de ce fait, les institutions ne réagissent que quand il y a des drames. Secondaire le périscolaire, Nicolas Léger, du syndicat FSU, ne dira pas le contraire. Pour lui, on paie 40 ou 50 ans de non-valorisation du périscolaire, que ce soit au niveau des gouvernements ou des collectivités. Vous voyez ? C'est cet article qu'on attendait, en fait. Il déplore au passage une stigmatisation de toute la profession. Ces derniers mois, alors qu'il juge les cas de violence dramatique, donc le syndicaliste dans l'éducation, la FSU, c'est un syndicat dans l'enseignement, il dit, bien sûr, hein, il dit que ces violences sont dramatiques, mais que ces cas sont infinitésimaux sur le nombre d'agents qui travaillent dans le secteur. Constat que partage Jean-Baptiste Cléricot, directeur général des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, CMEA, l'une des grandes organisations de éducation populaire, prestataire pour les collectivités locales, mais aussi grande formatrice d'animateurs, qui tient à soigner qu'un enfant est plus en sécurité à l'école, en colo ou en activité périscolaire qu'à la maison, puisque, dit-il, 80% des violences sexuelles se commettent dans le cadre de la famille ou des proches. Oui, mais en même temps, ça nous fait une belle jambe de savoir que l'essentiel des agressions se fait effectivement dans le cadre de la famille. Ça n'empêche pas que l'école et le périscolaire doivent être des sanctuaires. Hein. Donc j'entends, mais bon. À la FSU territoriale, on souligne que les conditions d'emploi et de travail des animateurs périscolaires conditionnent les conditions d'accueil et la sécurité physique et psychologique des enfants. Ça ne justifie rien en soi. Bah oui, je suis d'accord, Abby. Bien sûr. Voilà. Même j'ai dit, il ne faut pas négliger les 20% dans ce cas. On est bien d'accord. Et que la dégradation des premières, donc des conditions de travail, d'accueil, a des conséquences lourdes sur les secondes. Sous-effectif quotidien, taux d'encadrement et de qualification non respecté, précarité massive, épuisement des équipes, sans oublier qu'il a fallu un mouvement de grève du personnel, soutenu par les parents en novembre 2025, pour empêcher la ville de Paris de supprimer 100 postes de titulaires. Une ville où on dispose, c'est rare, de chiffres, et ceux-ci sont parlants. La capitale, puisque c'est au niveau municipal, vous me l'avez expliqué tout à l'heure, la capitale emploie 3500 animateurs périscolaires titulaires ou contractuels et près de 8500 vacataires sans contrat, payés 12 euros de l'heure et qui parviennent péniblement à gagner entre 800 et 1000 euros par mois. Cela alors que les besoins à Paris et partout ailleurs sont permanents et croissants. Jean-Baptiste Clérigo a calculé que sur une semaine, un enfant qui fréquente l'accueil du matin, la cantine et les activités du soir passe 50% de son temps à l'école sur les enseignements et 50% sur le périscolaire. Mais si on compare que les moyens que la nation consacre à l'un et à l'autre, il n'y a tout simplement pas de commune mesure. 10 à 15% des animateurs ont des diplômes d'État, 50 à 60% le célèbre BAFA. C'est comme si sur 10 enseignants, on en avait un ou deux avec le concours, 5 sans le concours, mais avec une petite formation rapide, et 2 pas formés du tout. Même chose pour les inspecteurs jeunesse et sport chargés du périscolaire, dont le nombre est d'un rapport de 1 sur 10 avec les inspecteurs de l'éducation nationale. Donc en fait, ce que nous dit le monsieur, c'est que en termes de temps passé, les enfants sont quasiment autant en périscolaire que sur un temps scolaire. Et par exemple, les inspecteurs de ce périscolaire sont 10 fois moins nombreux. Or, souligne le responsable associatif, l'accès à un périscolaire de qualité est déterminant dans la réussite scolaire parce que cela permet de rapprocher de l'école des enfants qui en sont éloignés. L'accès ou non à des loisirs de qualité est un facteur terrible d'inégalité sociale. Mais voilà, former des animateurs a un coût, et on en revient finalement toujours au même problème. Hein. Il faut 1 an pour obtenir un diplôme d'État en alternance, et pendant ce temps de formation, il faut remplacer la personne, sans compter dans le nombre de collectivités, ce qu'il n'hésite pas à nommer le bon sens à la con qui revient à penser. Par exemple, c'est un truc que vous avez déjà sûrement entendu, mais depuis quand on a besoin d'être formé pour s'occuper d'enfants? Nicolas Léger de la FSU plaide en outre pour que le personnel du périscolaire puisse jouer son rôle de prévention en étant formé par des professionnels de la protection de l'enfance. Ça, c'est intéressant, mais là aussi, c'est du temps et des moyens, bien sûr. Notamment pour détecter les signaux faibles, y compris quand les violences sont commises hors du cadre scolaire. Surtout, insiste-t-il, le sujet, c'est la structuration d'une filière en termes de formation, de statut, de carrière, avec l'objectif d'une vraie professionnalisation. Voilà les enjeux auxquels vont devoir faire face gouvernement et collectivités locales. Sans tergiverser, prévient Barca, on ne lâchera pas, il faut que ça change. Je vous lis. Oh, le beau message tout mignon. Chépifan. Bonjour Samuel, juste un petit message pour dire que tu as une nouvelle petite auditrice aujourd'hui qui a 10 jours. Est-ce que c'est pas trop chou? Fabst, bonjour Samuel, je suis papa d'un petit de 3 ans qui va dans un établissement public à Paris. Les révélations récentes nous ont poussé à décider de quitter Paris. Nous et les parents qui nous entourent sommes en colère contre la mairie de Paris qui porte une lourde responsabilité. Nous n'avons pas l'impression d'être entendus à la hauteur des enjeux. On parle de ce que nous avons de plus précieux, nos enfants. Alors, le dossier de l'UMA nous dit justement qu'on a fait un focus sur Paris, mais que ça, d'après une assoce, un collectif qui bosse dessus, qui a fait une carte de France des agressions de ces 5 dernières années, hélas, c'est partout. Donc, est-ce que le départ de Paris est la solution? C'est la question que pose l'humanité. Quoi. Chichou nous dit « Je suis animateur périscolaire, je me reconnais tellement dans ces dires. » d'aval. Nous, on a retiré nos enfants du périscolaire. Pas de violence physique ou sexuelle, mais verbale, émotionnelle. C'est pas possible. C'est très normalisé. Et quand on mentionne la possibilité d'y aller du fait de nos emplois du temps, ils paniquent un petit peu. Ah ouais. C'est dingue. C'est fou, ces témoignages. Magic Bow, je n'ai pas compris le rapport entre violence sexuelle et manque de moyens. Les deux problèmes sont gravissimes, mais un prédateur sexuel, formé ou non, reste un prédateur sexuel. En fait, Magic Box, où j'ai pas, là j'aurais pu expliquer, hein, peut-être parce que je ne suis pas assez clair, mais c'est des choses que j'ai lues dans d'autres articles, parce qu'on peut évidemment ne pas forcément voir le lien. Le lien, il est simple. Quand l'adulte est seul avec des enfants, sur un temps long, parce que là où il devrait être plusieurs, théoriquement, mais parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc l'adulte, il est seul. Si l'adulte est problématique et est potentiellement un agresseur sexuel, tu comprendras bien que c'est justement le manque de moyens et le manque de postes qui fait que justement il est seul avec des enfants. Normalement, on devrait jamais laisser un adulte seul avec des enfants. Seul, un enfant, un adulte seul. Ouais. Moyen. Et plus d'inspection, et plus d'encadrement, etc. Si l'adulte est censé, je vois pas le problème. Mais toi, tu as un... Mon Xcap 5, toi, tu as un détecteur à violeur, toi. Xcap, il a un détecteur à violeur. Enfin, il voit quelqu'un, et il... Alors lui, c'est un violeur, lui. Toi, non, lui, non. Lui, oui. Moi, je... Merci. C'est quoi la phrase ? Si l'adulte est censé, je vois pas le problème. Mais waouh, c'est pratique en vrai. Il faudrait qu'on équipe tout le monde comme ça. Voilà, comme le dit Battlefield Grandma, on oublie que les agresseurs n'ont pas de profil typique, ce sont des monsieur et madame tout le monde. Voilà. C'est pas si simple, Samuel. Les instituteurs profs sont bien seuls avec une classe en journée. Ouais, tout seul devant 30 élèves, ouais. Ou 25 élèves, ouais. Hein. Dans le périscolaire, c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, il y a aussi, hélas, pardon de le rappeler, et le chat le rappelle, parmi les enseignants, il y a aussi des agresseurs. Eh oui. Après, si vous pensez que les problèmes d'agression contre les enfants dans le périscolaire n'est pas un problème de moyens, et que c'est juste un problème de gens problématiques, qu'il faut détecter, on ne sait pas bien comment, et ne pas embaucher, bon, alors je veux bien, mais rendez-vous dans 5 ans et on relira les mêmes horreurs, quoi. Parce que pour détecter, justement, il faut des moyens. Exactement. Allez, on va voir. Je passe du coq à l'âne. Voilà. En tout cas, c'est un sujet dont vous en parlez, c'est très très bien. En tout cas, c'est un sujet. On en reparlera. Voilà. Mais je trouve dommage que sur cette question essentielle du périscolaire, il y a eu beaucoup d'articles en mode un petit peu fait divers, vous voyez, voilà, mais pas avec justement des articles qui réfléchissent un petit peu au sujet, comprendre d'où ça vient, pourquoi ça se produit, où ça se passe, quelles sont les éventuelles pistes. Voilà. J'ai lu tous les papiers sur le périscolaire depuis des mois. J'en ai peut-être raté, normalement je lis toute la presse le matin, mais c'est la première fois que je vois un article un petit peu de fond sur le sujet. Quoi. Voilà. Allez, ça on va partager ça avec nos amis de YouTube. Attention, 3, 4, Mathieu c'est pour toi. Amis de YouTube, un grand bonjour, vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch, c'est tous les matins, on lit la presse pour s'informer, on en parle ensemble. Et dans le sommaire du jour, en ce jeudi, eh bien, on a eu cette actu dont on voulait vous parler. Donc amis de YouTube, bonjour. C'est la suite des auditions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, sur le financement, la neutralité, l'indépendance de l'audiovisuel public. C'était un sujet qui m'intéressait pas plus que ça il y a quelques semaines, parce que bon, la télé. Bon. Et puis un jour, ils m'ont convoqué, ils m'ont auditionné. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant quand même de se pencher sur le fonctionnement de cette commission, puisqu'ils veulent m'entendre. On n'a pas été déçus. Et là, c'était une audition très attendue, c'était celle de Nagui, qui a duré un peu plus de 3 heures. Sur laquelle on fera un react d'ici la fin de semaine. Voilà, donc on passera 5-6 heures dessus pour écouter les propos des uns et des autres, les questions des députés, du président et surtout du rapporteur, c'est essentiellement lui, M. Charles Alloncle, du parti UDR, qui est à l'origine ce parti de la création de cette commission d'enquête. C'est eux qui l'ont demandé, c'est surtout lui qui pose les questions, c'est lui qui fera le rapport d'ailleurs. Et les réponses, bien sûr, des auditionnés. Et parmi les auditions les plus attendues de cette semaine, il y a une petite pause pendant la campagne municipale, il y avait l'animateur Nagui, voilà, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux hier. Dès que j'ouvrais mon fil sur les réseaux, il y avait des vidéos, des extraits. Lisons, alors c'est un tout petit résumé, mais c'est intéressant. L'article du Parisien signé qui nous parle, Benoît d'Aragon, qui est un spécialiste des médias depuis très très longtemps. Nagui rend coup pour coup, c'est une façon apaisée de dire que ça a été très 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 tendu, hier à l'Assemblée, notamment entre Nagui et justement le rapporteur Charles Alloncle. Commission d'enquête sur l'audiovisuel public, c'était une audition attendue, elle s'est révélée tendue. Ah, joli. Attendue, tendue. Entendue, joli. Hier, l'animateur vedette de France 2 s'en est d'emblée pris à Charles Alloncle, le rapporteur. Vous savez que les auditionnés ont le droit à un propos liminaire avant d'être interrogés. Et d'entrée, Nagui, il est parti. Il est parti en mode un peu agressif sur Alloncle pour lui reprocher des choses. Du brouhaha en guise de questions comme de réponses. L'audition de Nagui, mercredi après-midi, par la commission d'enquête parlementaire, a de nouveau tourné au règlement de compte. Et cette fois-ci, dès les premières minutes de l'audition. Début de semaine, l'Obs, donc c'est le magazine qu'on appelait le Nouvel Observateur avant, a révélé que Nagui, l'animateur, avait porté plainte contre X pour cyberharcèlement. Voilà. Alors, pas une plainte contre Charles Alloncle, mais contre X, parce que je pense que Nagui vise sûrement le député, mais aussi toutes les personnes qui, sur les réseaux sociaux, dont d'ailleurs X, l'ancien Twitter, eh bien, ont pris pour argent comptant les propos de monsieur Alloncle et sont venus agresser, injurier, menacer Nagui. Donc il y a une plainte. Il y a une plainte en justice. Dès son propos introductif, donc, une plainte pour cyberharcèlement. On verra ce qui va se passer. Donc c'est pas une plainte contre le réseau social X, hein, vous avez compris, hein, c'est une plainte contre X. Voilà. C'est quand c'est open, c'est ouvert. C'est-à-dire toute personne qui s'est montrée un petit peu violente avec Nagui, avec des accusations qui pourraient être considérées par la justice comme de fausses accusations, des accusations discriminantes ou qui constituent une forme de harcèlement, toute personne qui peut avoir fait ça sur les réseaux sociaux, eh ben, pourrait potentiellement être poursuivi. C'est pour ça que je dis à suivre. Dès son propos introductif, donc dès son propos liminaire, l'animateur vedette du service public a confirmé avoir déposé sa plainte, donc ça a été confirmé, se disant victime d'une campagne de haine déclenchée, selon lui, par les déclarations de Charles Alloncle, le député ciotiste. Pourquoi ciotiste? Parce que l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti, le nouveau maire de Nice, parti allié au Rassemblement National, qui est le rapporteur de cette commission. Alors c'est logique qu'il soit le rapporteur, puisque c'est l'UDR qui a demandé cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. En fin d'année, Ce dernier expliquait dans une interview, donc c'est monsieur à l'oncle, je vais m'intéresser à ces sociétés qui détournent, de mon point de vue, une bonne partie des 4 milliards de l'argent des Français. Alors, en langage, quand il faut analyser tout ça, quand il dit les 4 milliards de l'argent des Français, c'est le budget de France Télévisions. Enfin, de l'audiovisuel public. Je pense qu'il doit additionner Radio France aussi. Enfin, je suppose. Je soupçonne Nagui, dit-il, de dérives scandaleuses. Attendez, c'est vrai que je regarde un petit truc. Attendez. Oh le régal. Enfin, je suis sur un petit historique. Oh là 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 là. Comment ça se fait que tu sois passé entre les gouttes, toi? Oh là là. Ouf. Ouais. Allez. Clémence. Donc, continuons. De dérives scandaleuses par centaines de millions depuis des années, c'est la personne sur les 10 dernières années en France qui s'est le plus enrichie sur l'argent public. Ça, c'est une... Alors, que Nagui ait gagné beaucoup d'argent avec le service public d'audiovisuel, c'est sûr, quoi. C'est une évidence. Quand vous voyez le volume des émissions, le nombre d'émissions qui lui ont été confiées, le fait qu'il est animateur-producteur, et donc qui touche un salaire de présentateur, mais aussi une marge de producteur, oui. Après la phrase, c'est la personne sur les 10 dernières années en France qui se plus enrichit sur l'argent public globalement, tout secteur confondu, c'est un peu bizarre. Il y a sûrement des gens qui se sont fait plaisir aussi. Continuons. Nagui a vivement dénoncé l'utilisation du mot intuition, parce que c'est vrai que Charles Alonque l'a parlé d'intuition. Hein? Je ne sais pas à quoi vous attendez, monsieur Alonque, en me jetant en pâture comme ça, sans aucune preuve, à part votre intuition, a-t-il poursuivi, indiquant avoir reçu dans la foulée des menaces de mort. C'est une plainte contre X, à l'égard des auteurs de cette campagne de haine, donc potentiellement n'importe qui peut être convoqué devant la justice, à l'égard de ces personnes qui menacent de mort, à l'égard de ces personnes qui m'insultent, vous mettez ma famille en danger. Alors, je n'ai pas encore regardé l'audition, mais d'après ce que j'ai entendu, et on verra ça quand on fera le react, à un moment, il dit je suis sous protection, ma famille l'est aussi. Voilà. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des gens qui ont été, vous savez, homejackés, là, les saucissonnés. Parce que, notamment, des malfaiteurs pensent que la famille a de l'argent, donc ils déboulent la nuit. Il y a eu des animateurs, d'ailleurs. Il y a eu le pauvre, l'animateur de France Télévisions, là, qui a subi une agression hyper violente, comme ça. Guillon. Voilà. Bruno. Qui est un ami de Nagui, d'ailleurs. Voilà. Et donc, à un moment, il évoque ça, il dit, là, vous dites à qui veut l'entendre que je me suis gavé, donc que je suis richissime, dans un contexte où les gens potentiellement soupçonnés d'être très très riches peuvent être agressés, quoi. Donc, à un moment, il utilise cet argument. Voilà. Vous mettez ma famille en danger. En fait, ça vient de là. Mais on verra le react. Une sortie qui a mis hors de lui Charles Alonque, estimant avoir également été jeté en pâture par l'animateur qui lui avait adressé un long message sur les réseaux sociaux avec un post aussi mensonger qu'indigne, l'accusant ouvertement de racisme. Le député indique avoir reçu lui aussi des milliers de messages, dont des menaces de mort orchestrées par l'animateur. Voilà. Donc là, Charles Alonque, il dit qu'il a reçu des menaces de mort orchestrées par Nagui. Bon, c'est grave, c'est gravissime. Ce serait intéressant de voir. Moi, je serais à l'oncle, je porterais plainte en justice. Parce que d'ailleurs, si j'ai la preuve que quelqu'un a orchestré des menaces de mort contre moi, il faut porter plainte. Ouais. Ou alors, il faut porter plainte contre Charles l'oncle. Pour diffamation, en lui demandant de prouver ce qu'il vient de dire à l'Assemblée. Quoi. Tout ça est en train de se judiciariser quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est pas fini. On est tous menacés, t'en perds le président de la commission, le député Horizon Jérémy Patrieletus, donc lui qui est, bon, qui est, là, il est là pour présider, hein, c'est pas lui qui pose l'essentiel des questions. Et il dit, bon, on est tous menacés. Non, on n'est pas tous menacés. On n'est pas tous menacés. Contraint à plusieurs appels à l'ordre, il n'y a qu'un président de la commission d'enquête, et c'est moi, dit-il. Nagui a dénoncé la méthode de Charles Alonque, estimant qu'il avait accusé avant même d'enquêter. Alors c'est vrai que, pour le coup, si on prend les propos d'Alonque dans les TV, là, quand il dit « Je vais m'intéresser à la société qui détourne de mon point de vue », voilà. Et à un moment, il parle d'intuition. C'est vrai que pour le coup, Nagui lui dit « Bah ouais, mais en fait, vous vous accusez avant d'avoir enquêté, quoi. » Bon. Thomas, qui est notre ami très intéressant, pro à l'oncle depuis tout à l'heure, là, c'est un petit festival, lui dit « Récemment, j'ai vu une vidéo de Nagui qui faisait des leçons d'écologie à une candidate dont tout le monde veut prendre sa place alors que le mec profite des vacances pour aller sur des yachts MDR. » Non, tu n'as pas vu ça. Tu as juste écouté ce que Charles Alonque a dit hier, parce qu'effectivement, c'est lui qui est allé chercher cette séquence dans un jeu de Nagui où il se moque d'une jeune femme qui est en camping diesel, je crois. Et Alonque lui dit « Mais vous n'avez pas honte et vous, sur le yacht puis je crois que Nagui dit « Mais c'est pas mon yacht, j'ai été invité. » Voilà. Notre ami, là, dit « Ah, moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps. » Non, t'as juste vu le truc d'hier et tu reprends les mêmes arguments. Si tu fais un truc, fais-le un peu finement, parce que comme les gens de cette communauté sont un peu informés, du coup, dis-le que tu l'as vu hier. Il trouve ça intéressant, mais dis pas « J'ai vu sur Internet. » Ne me prends pas pour des billes non plus. Donc Nagui dénonce la méthode de Charles Alonque, estimant qu'il l'avait accusé avant même d'enquêter. J'ai cherché étymologiquement ce que voulait dire rapporteur, faire des investigations et ensuite un rapport. Visiblement, je me suis trompé. Pour ce qui est de mon cas, vous avez commencé par le jugement. C'est le reproche qui est fait. Sur ces bien mauvaises bases, parce qu'en fait, ça, d'entrée, ça commence. C'est très tendu. Je crois qu'à un moment, le président a rappelé tout le monde à l'ordre, d'ailleurs, en disant, on verra ça dans le réac, mais oh, ça intéresse pas les Français, toutes vos histoires, arrêtez. Sur ces bien mauvaises bases, Nagui a tenté de se justifier sur ses juteux contrats avec le groupe public. Alors ça, il y a zéro débat là-dessus. Hein. Les montants sont gigantesques. Nagui, c'est un des plus gros producteurs télé en France. Le nombre d'émissions qu'il a présentées et produites, c'est, pour le service public, c'est gigantesque. Alors oui, sur le volume, sur l'activité, il y a zéro débat. Sur ces bien mauvaises bases, Nagui a tenté de se justifier sur ses juteux contrats publics avec le groupe public. 100 millions d'euros, par exemple, pendant 3 ans. Selon une enquête de Mediapart en 2020, rappelant avoir été appelé plusieurs fois à la rescousse pour sauver la tranche 19h-20h. En gros, l'argument c'est « bah oui, moi on m'appelle pour présenter des émissions ou pour les produire, parce qu'en fait, ce que je fais, ça fait de l'audience, et donc on m'appelle sur des cases pour que ça marche, quoi. » Donc bah, il dit « bah et ça, ça a un coût, en gros. Hein. » Un créneau capital pour France 2, puisque c'est là que sont diffusées les dernières pages de publicité de la journée, et les plus chères, puisque le groupe public n'a pas le droit de passer de la pub après 20h. De ce point de vue-là, n'oubliez pas les paroles diffusées depuis 2007 sur la 2 est archi rentable pour France Télévisions, qui avait enchaîné les échecs avant l'arrivée du jeu de karaoké en confiant des émissions à Julien Courbet, à Sophia Aram, Laurent Ruquier, rappelle Le Parisien. Là, il y a un argument que j'ai pas compris de Nagui, c'est « J'ai entendu que je gagnais ma vie comme un footballeur, je vais renégocier mon contrat parce que je dois apparemment jouer en Ligue 2. » J'ai pas compris ça. À ironiser Nagui. Qu'est-ce qu'il veut dire ? J'ai entendu que je gagnais ma vie comme un footballeur, alors je vais renégocier mon contrat parce que je dois apparemment jouer en Ligue 2. Il dit qu'il gagne pas assez. Alors moi j'avais peur qu'il veuille dire ça. Ouais. Ah, parce qu'il gagne moins qu'un footballeur. Ah ouais. Ouais, bon. Bon, je... Ok. Bon. Ok. Bon. Ok. Bon. Ça va. Vous percevez, alors hop, la parole à l'oncle, vous percevez 2500 euros par émission, n'oubliez pas les paroles. Alors de quoi on parle ? On verra ça. Pour le coup, je connais un petit peu cet univers. Vous savez que je fais de la télé depuis 30 ans et puis j'ai présenté un jeu, donc... Du coup, je pense que je pourrais vous décrypter ça. C'est l'avantage d'avoir un vieux gars qui a fait de la télé. S'il décrypte un truc sur la télé, il peut vous donner du contexte, il peut contextualiser lui aussi. Effectivement, c'est un truc que je pourrais vous expliquer en audition, mais par exemple, 2 500 € par émission. Alors le problème, c'est on sait pas de quoi ça parle. Comme le dit à l'instant King Julian, est-ce que c'est facturé, salaire brut, net? On sait pas. Tu vois, c'est ça le problème de cette commission, c'est que ça manque de rigueur. Je vous l'ai déjà dit, ça manque de travail. Voilà. Quand on dit vous percevez 2 500 € par émission, n'oubliez pas les paroles. On sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est 2 500 € de salaire? Est-ce que c'est 2 500 € de chiffre d'affaires qui vont dans la société de Nagui? Est-ce que c'est 2 500 € net? Est-ce que c'est brut? Voilà. Alors, moi, ce que je pense, c'est que de ce que je connais de cette économie, c'est 2 500 € hors taxes de chiffre d'affaires par émission enregistrée, sachant que Nagui enregistre beaucoup d'émissions par jour. Quand il enregistre « Tout le monde veut prendre sa place », par exemple, en général... Les animateurs tournent 5, 6, 7 émissions par jour. Nagui tourne beaucoup, beaucoup plus. Hein. C'est des très grosses... voilà, jusqu'à 14 par jour, voilà. Certains ont vu ce chiffre. Jusqu'à 14 par jour, donc c'est 14 fois 2 500 pour une très grosse journée de tournage. Voilà. Donc, deux chiffres d'affaires hein, dans la société, mais c'est quand même de très gros chiffres. Voilà. Et à l'oncle dit, et en plus, l'audit de production révèle qu'en plus de ça, vous êtes versé une rémunération supplémentaire, donc en plus de ça, de 378 000 euros sur une seule saison. Mais là aussi, c'est pas clair. Parce qu'en fait, les 2 500 € pour moi, d'après ce que je connais de cette économie, c'est du chiffre d'affaires. Ça rentre dans la société. Donc ça rentre pas dans sa poche, c'est pas un salaire. C'est très gros, hein, mais c'est juste pour qu'on sache de quoi on parle. Et après, à l'oncle, il parle d'une rémunération supplémentaire. Mais sauf que les 2 500 €, c'est sans doute pas une rémunération, c'est un chiffre d'affaires. Donc est-ce que les 378 000 euros, c'est un salaire issu du chiffre d'affaires entré dans la société? Voilà. Les questions sont pas claires, sont pas précises. Donc après, les gens prennent ça sur Internet. Je dis pas que Nagui gagne pas bien sa vie. Hein. Il gagne très bien sa vie, hein. C'est pas ce que je dis ici. Hein. Mais après, les gens prennent ça sur Internet et... Et ils ne savent pas de quoi ils parlent, et personne ne sait. Voilà. Alors je crois que Nagui a dû contextualiser un petit peu, on verra dans l'audition si c'est clair ou pas, mais c'est ça le problème en fait. On continue, des chiffres contestés par Nagui, vous balancez des chiffres qui sont des volumes, des chiffres d'affaires à tactile, voilà, bah oui, c'était évident. Précisant que ces sommes vont à Baniget, le géant de la production dont il est salarié. Ouais. Nagui assure par ailleurs que sa marge nette se situe entre 5 et 10%, sans compter des émissions qu'il fabrique à perte comme les moins 20% de Taratata. Bon, je ne suis pas dans les comptes, mais 5-10% en marge de production, c'est pas beaucoup. Mais bon. Charles Alloncle persiste et signe, pointant lui la marge de Nagui qu'il estime à 25%. Tous ces éléments, vous voyez, donc là en fait on nous balance des chiffres et on ne sait pas qui nous dit vrai. Tous ces éléments ont été transmis par France Télévisions, argue le député, tandis que Nagui maintient son démenti ferme. Donc il y en a un des deux qui nous ment. Est-ce que c'est pas public ces comptes? Ce serait bien d'avoir l'analyse de ça. Bah, Loïc, c'est l'un des reproches de Charles Alloncle à Nagui. Les comptes de sa société, dit-il, ne sont pas publiés. Et là, tu vas me dire, mais Samuel, c'est impossible. C'est une obligation légale de publier tes comptes. Alors, et là, je te dis oui, mais non. Il y a deux exceptions. Soit ta société n'est pas très grosse et il y a une loi qui fait que si tu le demandes, tes comptes peuvent ne pas être publics dans certaines conditions très précises, nombre de salariés pas très important, chiffre d'affaires jusqu'à un certain niveau. Là, tu as le droit de demander la non-publication de tes comptes. Ou alors, tu peux refuser de publier tes comptes et tu payes une amende. Voilà. Et en fait, d'après ce que dit Alloncle, la société Nagui préfère payer l'amende pour que les comptes soient pas publics. Et d'ailleurs, je crois que Nagui a répondu là-dessus en disant « Oui, moi, je veux pas qu'on ait les chiffres parce que je veux pas que la concurrence connaisse les chiffres, connaisse le coût des émissions, etc. » Voilà. Donc, a priori, les chiffres sont pas publics. Du coup, tout le monde peut raconter tout et n'importe quoi, on sait pas. Donc, tous ces éléments ont été transmis par France Télévisions, argue le député, quand Nagui maintient son démenti ferme, réfutant aussi les attaques portées la veille par Patrick Sébastien. Une émission fonctionne, on vous la commande, on vous la recommande. Une émission ne fonctionne pas, on l'arrête, a-t-il rétorqué. En gros, il dit, ben, moi, je travaille, je gagne de l'argent parce qu'en fait, je suis bon, quoi. C'est ce qu'il dit. En 10 ans, la minute de N'oubliez pas les paroles a baissé de 33%, révèle aussi l'animateur. Donc là aussi, il faut décrypter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça, c'est un truc qui est vrai pour le coup, à 33%, je ne sais pas. Mais effectivement, contrairement aux idées reçues, France Télévisions a de moins en moins de budget, contrairement à ce que la commission a voulu faire croire à un moment. Et les budgets des émissions n'ont cessé de baisser. C'est-à-dire que ça fait des années que chaque année, France Télévisions dit chaque année aux producteurs, voilà, ton émission là, très bien, j'adore. Par contre, tu me l'as fait tant moins cher cette année. Et tous les ans comme ça. Donc, et ça baisse tous les ans. Je sais, moi je l'ai connu, je l'ai vu pour ma propre émission. Donc c'est depuis des années. Donc Nagui dit, en 10 ans, le budget a baissé de 33%. Je ne sais pas si c'est 33%, mais en tout cas, il y a un vrai truc. Et de préciser que pour encaisser les coupes budgétaires imposées par France Télévisions, lui et ses équipes ont dû passer de 7 enregistrements à 14 par jour, parfois. Voilà. Et là, on arrive à la multiplication dont je vous parlais tout à l'heure. 14 fois 2500 euros, a priori, de facture, de chiffre d'affaires. Et Nagui dit, pensez-vous sincèrement que c'est pour le plaisir de gagner plus ? Là, c'est à Nagui de s'expliquer, quoi. C'est énorme, 33%. Ah bah, c'est toutes les émissions, hein, c'est pas que Nagui. Hein. Voilà. Donc, à l'oncle n'a pas accès au compte, ben, il peut demander des documents à France Télévisions. Il, ben, manifestement, il les cite, donc il les a eus. Il les a eus. Une émission, c'est 2500 euros, c'est très peu. Non, mais vous... Ah, désolé, c'est un peu technique. Non, 2500 euros, c'est ce qui est payé pour l'animation à Nagui. Pour une émission. Pour, je sais pas, tout le monde va prendre sa place, ça prend une heure à enregistrer à peu près. Voilà. Mais a priori, en chiffre d'affaires. C'est pas un salaire. 2500 euros. Après, t'as tous les frais de production, de tournage, caméra, lumière, son, catering, la cuisine, la cantine, déplacement des invités, etc. 2500 payés à sa société, ça paye probablement des gens, des frais, tout ça. Ah non. Non, non, je connais les chiffres un tout petit peu de cette économie. C'est 2500 euros pour la prestation d'animation de Nagui. Et pas par jour, par émission, donc fois 14. Non, ça paye que ça. Mais c'est sans doute pas un salaire, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que la commission, elle n'explique pas tout ça. Elle n'explique pas tout ça parce que tout simplement, elle le sait pas. Pardon, hein. Mais quand on fait une... Là, je vais être méchant avec la commission d'enquête. Mais quand on fait une commission d'enquête sur le viol public, ben, la base, c'est de connaître un peu le sujet, quoi. Je pense que M. Alloncle, avant d'accepter ce poste de rapporteur sur cette commission souhaitée par son parti, ben, il connaissait sans doute pas grand-chose. Et ça se voit. Parce que là, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est essentiel pour comprendre de quoi on parle. Et pour comprendre et pour savoir ça, faut connaître le truc de l'intérieur, quoi. Et donc, bah voilà, c'est comme ça qu'on se balance des chiffres à la figure et que, avec plus ou moins de bonne foi et de mauvaise foi, on dit des choses. Alors, ou de bonne foi, parce qu'en fait, on balance des chiffres, mais on a rien compris à ce qu'ils veulent dire. Ou de mauvaise foi, on a compris, mais on a envie de faire du buzz et voilà. Ça, moi, je suis pas dans la tête des gens qui posent des questions, donc je sais pas. Mais globalement, le travail est pas très rigoureux, quoi. Samuel, c'est énorme, on ne peut pas défendre. Ah bah oui, c'est énorme, mais c'est pas le sujet. Attendez, vous découvrez que Nagui gagne de l'argent. c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est malhonnête, est-ce que c'est illégal, est-ce qu'il est plus cher que les autres animateurs par rapport à l'audience qu'il fait, voilà. Le mec, il bosse pas à l'armée du salut. Hein. S'il a choisi ce métier, comme tous les autres présentateurs, y compris moi, c'est parce qu'il trouve ça sympa, marrant et que ça paye bien. Vous voyez. Mais le sujet, le sujet n'est pas ça. Le sujet n'est pas « Ah, les animateurs de télé gagnent de l'argent ». Non. Le sujet, c'est est-ce que l'argent de France Télévisions est mal dépensé. Et c'est les questions devraient porter sur ça. Donc, quand vous me dites, ah, mais c'est énorme, ils gagnent beaucoup d'argent. Oui, vous avez raison. Oui, c'est énorme. Voilà. Bah, et après, on peut y aller. Hein. Oui, mais moins que les sportifs, moins que les footballeurs, moins que les chefs d'entreprise du CAC 40. Voilà. Après, on est toujours le pauvre de quelqu'un et le riche de quelqu'un. Donc oui, c'est énorme. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la commission. Sinon, il faut créer une commission sur les salaires des animateurs. Et là, on va inviter d'autres animateurs. Et là, on va inviter d'autres animateurs. On va inviter des animateurs de TF1, par exemple. Ah ben oui ! Mais c'est pas... Si on veut faire une commission sur les salaires des animateurs, on va inviter d'autres animateurs. Et on va pas inviter que des gens de France Télévisions. Et puis, on va inviter... Et puis après, vous allez me dire, ah oui, mais alors les créateurs de contenu. Vous voyez ? Donc, le sujet, c'est est-ce que l'argent de France Télévisions est bien utilisé ou pas ? Donc, oui, c'est énorme. La question, c'est est-ce que cet argent est bien utilisé pour Nagui ? Je n'ai pas la réponse. Et en vrai, je n'ai pas d'avis. Voilà. Et on regardera cette audition pour faire un petit react. Mais ce que je reproche à la commission, c'est que, en fait, ils connaissent mal le sujet sur lequel ils enquêtent. Et ça donne un peu n'importe quoi pendant les auditions. Ça, on l'a déjà vu avec Bolloré, par exemple, ou d'autres. Voilà, c'est souvent à côté, quoi. On parle d'un truc et en fait, non, c'est pas ça. Ils pensent poser une question là-dessus. Et puis en fait, non, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc, il y a ça. Et du coup, le problème, c'est que toutes ces questions approximatives, et c'est au-delà des questions, ces analyses approximatives, ça part sur Internet. Certains faisant même des tweets à tire larigot. Hier, il y a eu encore plein de tweets des personnes qu'on vient de citer là. Et donc ces questions approximatives, ces analyses approximatives deviennent des informations, voilà, prises pour argent comptant par des milliers de personnes, voilà, qui font après leur petit tweet oui.
Et oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
N'est-ce pas monsieur Pro ? Monsieur Pascal Pro. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. Donc, mais c'est pour ça qu'on fera un petit réact là-dessus, parce que c'est intéressant. Je vous lis un petit peu, puis on enchaîne. Pourquoi pas d'audition à huis clos ? Travail de l'Assemblée, c'est bien que ce soit public, on voit les gens travailler. Non, moi je demande pas le huis clos, mais je demande que le travail soit fait avec rigueur, quoi. C'est comme des députés, quoi. C'est comme des élus. Je vous lis. Utiliser de l'argent public et ne pas montrer les comptes ne devrait pas être possible de dragonner. Mais oui, mais le problème, c'est que ces entreprises publiques comme France Télévisions travaillent avec des entreprises privées qui sont les producteurs. Hein. France Télévisions est pas la seule. Est une société publique qui a décidé de travailler avec des entreprises privées pour produire les émissions. Voilà. Parce qu'en fait, embaucher en interne tous ces gens en CDI à France Télévisions pour faire ces émissions, ça coûterait très très cher. Très 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 cher, parce qu'une émission aujourd'hui, une émission ça naît et ça s'arrête, hein. Ça, vous le savez. Et donc aujourd'hui une émission dont France Télévisions ou TF1 ou M6 veut plus, voilà, ils envoient un préavis à la boîte de prod, ils disent on n'en veut plus, c'est fini quoi. C'est encadré, il y a des clauses de sortie d'audience, voilà. Et après débrouillez-vous avec les salariés. Mais imaginez si France Télévisions devait embaucher en CDI toutes les personnes, y compris les Nagui, etc., pour faire ces émissions, ça ferait des coûts fixes gigantesques. Et puis quand, à un moment, on veut se séparer, arrêter une émission, se débarrasser d'un animateur, ce qui arrive un peu souvent dans ce milieu, voilà, après, il faudrait trouver des nouvelles occupations à ces gens, au même salaire, ou alors partir sur des procès au prud'homme qui coûteraient des fortunes. Donc, ta solution... ta solution est intéressante, mais ça coûterait sans doute encore plus d'argent. Mais ça, c'est pas un truc qu'on a entendu dans cette audition, par exemple. C'est quand le React, je sais pas. quand j'aurai le temps. Demain, j'ai un gros stream important, demain matin, demain et vendredi, samedi. Samedi ou dimanche. Samedi ou dimanche. Je vous lis. Ce qui le choque le plus personnellement, c'est les questions qui n'ont rien à voir avec la commission. Tout à l'heure, quelqu'un est venu nous dire « Ah, moi j'ai vu sur Internet que Nagui s'était moqué un jour d'une candidate parce qu'elle avait un Campicard diesel alors qu'elle disait qu'elle était pro-écologie et Nagui qui est quelqu'un qui aime bien taquiner. » Bon, c'est un style d'animation, les autres, ils s'étaient un peu moqués d'elle. Et à l'oncle lui a dit « Ah oui, mais alors elle est le yacht alors. » Bon, très bien, hein. La question serait pertinente si Nagui avait un yacht. Lui, il dit qu'il n'a pas de yacht, qu'il a été invité sur un yacht. Donc, du coup, c'est vrai que c'est moins pertinent. Et puis, surtout, quel est le rapport? C'est une commission d'enquête sur la neutralité, le financement, l'indépendance de l'audiovisuel public. Et la question est posée sur une remarque qu'il a faite à une candidate qui avait un camping-car diesel, alors que lui, supposément, était sur un yacht. À lui. Qui, en fait, n'est pas à lui. C'est quoi le rapport avec le... Ouais, là oui. Ça aussi c'est fait avec de l'argent public, hein. Rigolez pas, c'est fait avec vos impôts, hein. C'est pas fou. Là aussi c'est pas rigoureux, quoi. C'était méprisant quand même. Je suis pas en train de vous valider l'humour de Nagui, moi. Hein. Je regarde pas la télé. Je m'en fous en vrai. Mais je dis juste que ça a aucun rapport avec la commission. Moi je défends personne là. Dans l'audition, je suis sûr qu'on j'entendrai les arguments de Nagui que je vais pas trouver pertinent, puis je vous le dirai. Quand il dit à un moment là, on m'a dit que j'étais payé comme un joueur de foot, dans ce cas je vais être payé en Ligue 2, sous-entendu je suis pas payé assez, franchement, hein. Donc je suis sûr qu'il y a des trucs de Nagui dont je vais vous dire c'est pas fou. Mais là par exemple la question sur le yacht, elle a pas sa place dans cette commission. Je vous lis. Je vous lis, j'ai plein de messages, donc je prends mon temps. Quand 90% des gens confondent chiffre d'affaires et bénéfices, n'ont aucune notion de coût de production, de coût d'une entreprise, difficile de parler d'argent en transparence, dit Papy Pantoufle. Oui, ça rappelle une question de Charles Alloncle sur les 50 000 euros d'un coût de studio. Alors, est-ce que c'était envoyé spécial ou complément d'enquête qui était posé à Élise Lucet? Et je ne sais plus qui a répondu, mais en rigolant, en me disant « Mais non, mais vous n'avez pas compris, 50 000 euros, c'est... » C'est le coût de fabrication du studio, du décor, les gens qui travaillent autour. Oui, tout ça, bout à bout, c'est ça, ouais. Et ce jour-là, je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, il y a des streams événementiels avec un peu de moyens on est dans ces prix-là, quoi. Mais quand on ne connaît pas le sujet, on pose des questions un peu à côté de la plaque, quoi. Pour la revue de presse, c'est aussi un studio à 50 000 euros? Non, pas là. Je suis désolé, mais ça devrait être au président de la commission de corriger la question quand il y a des erreurs volontaires comme ça. J'ai l'impression qu'il a essayé un peu au début, le président, mais je crois qu'il a un peu lâché l'affaire. Il recadre vraiment quand ça devient n'importe quoi. Mais comme il s'est quand même pas mal pris le chou avec le rapporteur au début, là. Ouais, souvenez-vous.
Mais Jérémy, franchement.
Non, mais
Mais qu'est-ce que tu fais là?
Hein? Quand le président avait suspendu l'audition, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un deuxième temps où voilà, il reprend que les trucs les plus fous, quoi. Mais il recontextualise plus beaucoup, quoi. Alors, et vous êtes plusieurs à me dire, ouais, et puis en plus, Charles Laloncle, il est chef d'entreprise, et du coup, il devrait savoir tout ça. Alors moi, j'ai une question là-dessus, j'ai pas la réponse. Charles Laloncle, il dit souvent, dans ses interviews, y compris dans cette commission, qu'il était chef d'entreprise. Et effectivement, c'est comme ça qu'il se présente, même officiellement, je sais plus sur quel truc de l'Assemblée. C'est aussi sur sa fiche Wikipédia. Et alors, c'est pas un sujet essentiel, mais ce que je n'ai pas réussi à déterminer, c'est, peut-être que vous, vous avez l'info, peut-être que vous m'aiderez à la trouver, c'est, est-ce que il était chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il a créé une entreprise, et qu'il était le chef d'entreprise, hein, avec tout ce que ça implique en termes de prise de risque, voilà. Personne ne sait laquelle. Si, c'est une néobanque. C'est une néobanque. Voilà. Ou est-ce qu'il était salarié, par exemple directeur général, donc salarié de cette entreprise? Ce qui n'est pas la même chose. Parce que moi, vous savez que je fais attention aux mots, parce que c'est bien le problème. Cette commission ne fait pas attention aux mots, elle n'est pas assez rigoureuse sur les trucs. Et salarié, même directeur général d'une entreprise, et entrepreneur, ce n'est pas la même chose. Entrepreneur, c'est celui qui va... d'abord créer l'entreprise, mais qui va aussi prendre des risques par rapport à celle-ci. Et c'est pas tout à fait la même chose qu'un directeur général qui prend son salaire quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Et en fait, j'ai cru lire un article, mais à l'époque je l'avais pas mis de côté, qui disait que Charles Laloncle n'était pas entrepreneur, mais qu'il était peut-être DG, donc salarié. Ce qui est... Alors, pour le coup, vous allez me dire c'est la même chose. Non, parce que quand on dit moi j'ai été entrepreneur, ça renvoie à quelque chose, voilà. Notamment l'esprit d'entreprise, voilà. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Donc j'ai pas cette info, mais elle est intéressante parce que si cette information était vérifiée, qui est à vérifier, à savoir qu'il n'était pas entrepreneur. Mais qu'il était DG, par exemple, ça veut dire que quand il dit j'étais entrepreneur, c'est faux. Les risques ne sont pas les mêmes. MMG, tu me dis que tu as l'info. Okay. C'est juste, vous allez me dire, c'est un détail. Mais oui et non. Et s'il est entrepreneur, ben, c'est très intéressant. Ça déjà, respect, parce que c'est bien. On peut s'interroger. Je t'ai envoyé son profil LinkedIn. Ah, mais c'est pas une info, ça. On met ce qu'on veut sur un profil LinkedIn. C'est pas à nous. Non. Ça veut dire que quand il confond chiffre d'affaires et bénéfices, par exemple, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il le fait sciemment dans ce cas-là. Wikipédia. Ouais, en 2019, il participe à la création d'une néobanque, voilà, c'est ce que je vous ai dit, du nom de Blanc, société détenue à 100% par le Crédit Agricole dans le domaine de la fintech, dont il devient le directeur de l'exploitation, CEO. Ah. Et là, il y a Mef qui me dit il n'est pas entrepreneur, il est juste arrivé responsable des opérations chez Blanc après HEC. Ben, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et c'est pas ça un entrepreneur. Voilà, c'est tout le sujet. Si vous connaissez un peu le monde d'entreprise, vous comprenez la nuance. La question, en gros, est-ce qu'il est actionnaire? Parce que s'il est créateur de cette entreprise, ou co-créateur, voilà, ou co-fondateur, ça veut dire que, notamment, il a des parts de l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des parts d'entreprise quand on est député? Je sais pas. Peut-être, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, c'est un détail, mais ça renvoie à cette notion-là. Tu peux avoir des actions. Ah, c'est autre chose. Avoir les actions de. Bien sûr, tu peux avoir un PEA. Mais est-ce que tu peux avoir des actions de ton entreprise? C'est ça. Est-ce que tu peux être. J'ai pas la réponse. Hein. Oh, il a fait HEC, oui. Il a fait HEC. Il a fait deux grandes écoles. Je crois qu'il a fait Sciences Po, peut-être aussi, et HEC, ouais. T'as souhaité député. Ah oui, t'as raison, ça doit être possible alors. Okay. Oh, mais en même temps, c'est un détail. Voilà. Donc, le plaisir, c'est que on se fera ce React qui va durer, je pense, entre 5 et 6 heures, parce que la vidéo fait 3 heures, un peu plus de 3 heures. Non, je le connais cet article Defecator, je le trouve pas clair justement. Defecator me donne depuis tout à l'heure un article des Échos que j'ai déjà lu il y a longtemps, mais je trouve qu'il est pas très clair sur ce sujet justement. Tu vois, ça parle d'un entrepreneur, mais entrepreneur ça veut rien dire. Hein. Je le connais cet article. Mais en fait, justement, il est super flou. Parce que moi, j'aimerais savoir simplement si, en gros, il a des actions de la boîte, quoi. C'est pas compliqué, hein. Et donc... Ouais, Hurley. Et donc, ça, on le réacte ce week-end. Peut-être samedi, peut-être dimanche. Je vous tiens au courant. Tac. On passe sur CNews. Let's go. Alors, bon, moi je regarde pas les chaînes d'info, c'est pas une obsession, hein, mais il y a un dossier dans La Croix sur qui regarde CNews. Bon, voici l'article. Alors, CNews qui récemment est passé première chaîne de France, première chaîne info de France, qui est quand même quelque chose, c'est important, et qui a perdu cette place à la faveur du conflit au Moyen-Orient, en Iran. Étrangement d'ailleurs, les téléspectateurs sont un peu partis de CNews en raison de cette forte actualité, sont reportés sur les autres chaînes, notamment LCI et BFM. Voilà. Je ne sais pas si le dossier va en parler, le dossier de La Croix se penche plutôt sur le profil des gens qui regardent CNews. Voilà. En même temps, c'est compliqué de faire un profil, les gens qui regardent CNews pour des raisons très très différentes, je suppose, et qui sont très très différents. Voilà. Mais peut-être qu'il y a un portrait robot général de La Croix. On va lire cet article ensemble, on va essayer de comprendre. CNews caracole en tête des chaînes d'information malgré des dérapages et des sanctions régulières. Ça rappelle C8. La Croix a échangé avec des spectateurs pour mieux comprendre la confiance qu'ils accordent à la chaîne de Vincent Bolloré. À la rencontre du public de CNews, c'est le titre de ce dossier. CNews, c'est la chaîne où on ment le moins, dit Yves, portant une bière à ses lèvres. Comme tous les matins depuis 20 ans, cet ancien concepteur de décors télévisés retrouve son ami Gérard, septuagénaire également retraité, donc c'est des retraités, Eddie, vendeur de livres, à l'aéro-brasserie parisienne du 16e. Accoudé aux zinc, les yeux rivés sur l'écran de télévision, Yves ne tarit pas d'éloges sur la chaîne du Canal 14. Son émission préférée, face à Philippe de Villiers le vendredi soir. Il a une émission, Philippe de Villiers, le vendredi soir sur... Ouais, ok. J'aime sa franchise, son naturel. En accord avec les convictions de l'ancien député européen souverainiste, le retraité préfère son commentaire plutôt que l'information pure puisqu'il pense comme lui. Bon, la phrase, la bière, je m'en fous, hein. Mais la phrase là, par contre, elle fait peur. Donc, le monsieur parle de Philippe de Villiers, il dit « Je préfère son commentaire plutôt que l'information pure puisqu'il pense comme moi. » Bon. Ça, c'est un peu embêtant. Assumant haut et fort sa détestation des chaînes publiques, carrément, hein, ça déteste ici. Hein. Il peut compter sur l'approbation quotidienne de Gérard, lui qui aime bien le philosophe Michel Onfray, qui est très souvent sur CNews. Face à leur radicalité, le troisième copain, Eddie, lui se fait plus discret, honorant le rendez-vous matinal depuis 6 ans. Comment ça, matinal depuis 6 ans? Les mecs sont à la bière. C'est tous les matins? Ah, c'est tous les matins. Ok. Bon, écoute, c'est de l'eau, c'est des céréales. Après tout, pourquoi pas? Ça se trouve, il n'y a pas trop de cadmium dedans. Et donc, Eddie, il dit, honorant le rendez-vous matinal depuis 6 ans, le quadragénaire se laisse porter par leur gouaille. J'écoute ce qu'ils me disent car je ne me sens pas assez cultivé pour penser différemment, raconte-t-il, un brin fataliste. Depuis son lancement en 2017, la chaîne, propriété de Vincent Bolloré, s'est installée dans le paysage audiovisuel. Si elle a perdu sa place de leader de l'info le mois dernier, devancée par BFM, elle reste la première dans le cœur des 8 millions de téléspectateurs par jour, 3,2% des parts d'audience, qui lui ont fait confiance en ce même mois. Que sait-on vraiment de ce public qui nourrit beaucoup de fantasmes ? Des profils qu'il réunit au-delà des caricatures, c'est ce que je vous disais. Les gens qui regardent CNews, c'est des gens très différents. Forcément. Et des motivations de ceux qui défendent coûte que coûte une chaîne régulièrement sanctionnée pour ses dérapages. Bon, il y a un encadré sur les dérapages que j'ai pas lu, on ira voir. Ouais, je pense qu'il y a des gens très différents qui regardent CNews, puis il y a des gens qui regardent CNews pour des raisons différentes aussi. D'après une enquête des Jours, qui est un média indépendant sur un Internet qui a été créé par les anciens de Libération, publié en janvier 2026, CNews attire en majorité un public de plus de 60 ans. 68% de l'audience à plus de 60 ans. Après, c'est pas une grande surprise, le public de la télé est âgé, déjà. Et inactif. 67% des téléspectateurs de CNews ne travaillent pas, ou sont sans emploi, ou sont retraités. Et c'est un public où les catégories, ce qu'on appelle les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures, sont sous-représentées par rapport aux autres chaînes de télévision, moins 14%. Voilà. Un public qui se distingue aussi par sa préférence pour l'extrême droite. Ah, pour le coup, il y a une petite distinction. Comme le souligne Julien Labarre, politologue à l'université de Zurich, 67% des téléspectateurs regardant CNews plusieurs fois par jour ont voté pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2022. C'est 25 points de plus que de la moyenne nationale. Donc, selon ce chercheur, il y a plus de gens qui ont voté Marine Le Pen qui regardent CNews que sur les autres chaînes. C'est 25 points de plus que la moyenne nationale. À l'Aéro, la Croix, ils ont passé leur journée au bar, quoi. À l'Aéro, Raouf, derrière le bar depuis 20 ans, allume CNews tous les matins. Ah, lui, c'est le patron du bar, d'accord. Même si parfois le ton est excessif, dit-il, c'est la seule chaîne qui ose parler des gens qui profitent du système. Dit ce fan de la journaliste Sonia Mabrouk, tunisienne comme moi, dit-il, dont il regrette la démission, puisque Sonia Mabrouk, elle est partie. C'est un sentiment d'injustice qui a forgé sa fidélité. Je me lève à 4h du matin, 6 jours sur 7, je galère quand d'autres bénéficient d'aide sociale sans les mériter. Se plaint ce père de 3 enfants en écho à une idée qui est largement diffusée à l'antenne, vous savez, les profiteurs du système, et moi je bosse et j'ai rien, enfin voilà. Sur CNews, Alix se sent aussi enfin représenté, mais pour d'autres raisons. C'est ce que je vous disais. Je pense que les gens regardent CNews pour des raisons très différentes. C'est parce que je suis une chaîne. C'est parce que c'est une chaîne de droite que je regarde, dit-elle, Alix, qui refuse toute proximité avec l'extrême droite. Contrainte de suivre son mari militaire, elle a connu Saumur, la région parisienne, Montpellier, Brive-la-Gaillarde, vit depuis un an à Draguignan. Et elle trouve que CNews est au diapason de la réalité du terrain, dit-elle. Partout, il y a des HLM remplis de misère humaine, décrit cette ancienne professeure des écoles, qui est devenue correctrice web, que ce soit économique, social ou sécuritaire, le déclin de la société est général. Habitué de l'émission de Pascal Pro.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Je vais aller chercher Pascal à un moment d'ailleurs pour ces trucs-là. Elle en apprécie la dimension nostalgique. Il évite le piège du jeunisme en invitant des personnes mûres et clairvoyantes.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Offrant un discours de vérité. Elle invite d'ailleurs son fils aîné de 18 ans à regarder CNews, en plus de la lecture du Figaro auquel la famille est abonnée. Féru d'actualité, donc elle, Alix, elle a dit, moi je suis droite, je suis pas l'extrême droite. Hein. A regardé quelques extraits de l'audition. Tiens, devant, on y revient à la commission d'enquête parlementaire sur le public de Vincent Bolloré, victime selon elle d'une caste puissante en lutte contre les médias jugés indésirables. Vincent Bolloré a parlé un nombre important de fois de la caste, qui était victime d'une caste. Au début, les gens disaient « Non, il n'a pas dit caste, il disait case. » Après, on a entendu après une trentaine de fois caste. Et donc, on a écouté avec intérêt cette audition et il n'a jamais défini la caste. Alors, qui sont... Alors, c'est pas très clair. Et donc, bah, la dame, elle en parle. C'est la caste. C'est la caste. C'est la caste, c'est la caste, c'est la caste. La caste puissante, en lutte, contre les médias jugés indésirables. Qui sont les gens dans la caste? Moi, je sais pas, Bolloré l'a pas dit, et Alix précise pas, mais pour le coup, j'aurais aimé que le journaliste de La Croix dise à Alix, mais attendez, il y a qui dans la caste? Voilà. Saluant les références catholiques du milliardaire, elle remercie CNews de parler de carême sans rougir, de porter un regard de foi sur les questions autour de la vie, d'évangéliser en diffusant... En diffusant la messe. Bah, et France Télévisions, on diffuse la messe aussi. Hein. Du baume au cœur pour elle qui s'est sentie attaquée par les médias qui prônent le wokisme et le LGBTQ. Et conclut, CNews me donne aussi une ligne de conduite au quotidien, notamment au moment de voter. Ok. Ce discours moral fédère, comme elle, de nombreux téléspectateurs. Par-delà l'aspect politique, le public de CNews est soudé par des valeurs comme le respect de la dignité humaine, un fort aspect religieux aussi, dit François Josse, qui est un sémiologue, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Médias, sortir de la haine ». Proximité aussi cultivée par les présentateurs, à rebours d'un discours d'expert perçu comme condescendant et détaché de la réalité, et même par le traitement des sujets, toujours abordés selon leur impact sur les Français. Hein, on dit « Ah oui, mais alors les Français, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, cette chose. Mais les Français !» Qu'est-ce qu'ils en pensent les Français? Et les pauvres Français? Et les Français, ils souffrent? Et les Français, voilà. Dans les questions de monsieur à l'oncle, qui doit regarder CNews, dans la commission, il y a souvent ça. Les Français. Alors c'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un qui dit les Français. Moi, mon constat, c'est que les Français, ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais sur certains, dans la bouche de certains politiques et dans certains médias, eux, ils savent ce que les Français pensent. Voilà. C'est pas des Français, c'est les Français. C'est intéressant. Tous ces éléments confortent aux yeux du chercheur le téléspectateur dans son monde par un biais de confirmation. Bah oui, parce que les Français pensent comme eux, quoi. De là en faire un guide dans l'isoloir, impensable pour Luc. C'est un banquier de 62 ans qui a été attiré par la notoriété de la chaîne. Passionné de politique, ce franco-suisse né en Bourgogne, ancien conseiller de quartier à Versailles, cherche sans cesse le débat. Aussi, il se définit tout à la fois comme habitué de CNews et addict de C'est dans l'air. Depuis une adolescence marquée par les combats féministes de sa mère, il assiste à des meetings politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche. Quelqu'un de curieux, quoi. S'il regarde la chaîne de Vincent Bolloré parmi d'autres, c'est pour échapper à tout sectarisme et à s'intéresser au contenu plus qu'à l'étiquette. Autant dire qu'il ne se sent pas enfermé dans une bulle CNews, qu'il trouve de toute façon moins dangereuse que celle des réseaux sociaux, même si, reconnaît-il, le discours à l'antenne peut parfois être caricatural. Critique rare au sein du public assidu, comme Sandrine à Marseille, ancienne vendeuse, femme de ménage, puis maraîchère, aujourd'hui sans emploi. Elle ne zappe plus sur les JT régionaux, LCI ou BFM. Trop de sujets internationaux, trop de conflits. Arrêtez de nous apporter la guerre. Alors, techniquement, c'est pas les médias qui apportent la guerre. Techniquement, aujourd'hui, c'est Trump. La France ferait mieux de s'occuper de ses problèmes, l'insécurité, l'immigration et les traditions qui se perdent. Insiste cette électrice du RN. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Marseille, mon 7e arrondissement et mon pays. Désormais, pour elle, CNews, c'est 3 heures par jour, matin, midi et soir. Voilà. Alors, c'est un exercice qui est forcément réducteur. Hein. Je pense qu'il y a des gens très différents qui regardent CNews. Là, il y a juste un portrait de quelques-uns. C'est forcément parcellaire, mais bon, c'est pas inintéressant. Je vous lis un petit peu. Salut Pumpies. Ah, on se voit à Tours. Je vais aux assises du journalisme de Tours bientôt. Je vous lis en même temps. Je lis deux chats. Je lis le chat qui tombe instant et le chat que j'entends de remonter. J'ai deux chats. Ma mère regarde CNews et je vois les propos qu'elle tient qui se dégradent comme gauchos de merde. Ah, ça va encore, hein, gaucho de merde. Moi, je me suis habitué. Wokisme. Oui, deux chats, mais deux chats Twitch. J'ai deux chats Twitch. Salut, salut, RG, c'est quoi? C'est mignon. RG, RG, RGL Papounet. Merci. Merci Sukura. Merci à You Don't Know Me Fleur. Merci Oliver. Merci Battlefield Grandma. Merci. Merci Eri, je lis aucun sub. Merci Rivadard. Merci MGTIN. Merci Minogo. Merci Canfré. Merci Nizaris. Merci beaucoup. Je vous lis maintenant et on enchaîne avec le pipi. L'agriculture, l'espoir du pipi. J'adore ce titre. Merci Cyril. Artemis 2, fusion, on va se gaver demain matin. Ouais, on aura des beaux articles. Merci à ce moment-là. Hop, 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 hop. Merci, Jacek, pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci, Jacek. Merci, Van Cleef. Vous êtes super. Allez, on enchaîne? Eh. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes là pour le pipi, hein. Je vous connais. Eh oui, vous avez vu dans le sommaire ce titre intrigant. L'espoir du pipi. Alors, précisément, agriculture de points, l'espoir du pipi. Alors, moi, je trouve ça très intrigant. Quand j'ai vu ça dans Libération ce matin, il était tôt. J'avais pas trouvé il manquait une pièce de la machine à café. J'avais pas pris de café. Et je tombe sur cet article. Je vois quelqu'un dans le chat qui écrit: j'adore le pipi. Capitaine, oui. Libération, avec son humour habituel, écrit: fertilisant l'urine, une goutte d'espoir. Une goutte. Normalement, la dernière goutte, c'est pour le caleçon, mais là, c'est pour Libération. Oh non, pas les soupeurs. Non, non, Matmaker. Non, pas les soupeurs. Oh non, non, pas ces images. Pas là, non. Non, je sors d'une semaine de tournage, je suis épuisé, je suis crevé, je suis dead. Ah non, pas les soupeurs, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire de pipi? Alors, sur le plateau de Saclay dans l'Essonne, la ferme d'Emmanuel Laureau participe à une expérimentation utilisant le pipi comme engrais, une solution encore balbutiante qui vise à réduire notre dépendance aux intrants azotés importés du Moyen-Orient. En fait, vous pensiez qu'on allait parler du pipi, en fait, on parle du Moyen-Orient, les gars. On parle de l'Iran. Pendant des années, il a déversé les pots de ses enfants, donc de pipi, plein à ras-bord dans ses géraniums. Le monsieur récoltait le pipi des enfants et les mettait dans les géraniums, donc de l'urine à la place de l'eau. Ils ont toujours été magnifiques, scande Emmanuel Laureau, qui parle des géraniums et pas des enfants. Agriculteur de 61 ans, en pointant les jardinières installées aux abords de sa ferme dans l'Essonne. Il monte les géraniums, il dit: ça, les gars, c'est au pipi. C'est fini au pipi, regardez-moi ces feuilles, regardez, c'est brillant, c'est beau, c'est magnifique. Alors, quand on m'a parlé de répandre du pipi dans mes cultures pour remplacer les engrais chimiques, je me suis dit: pourquoi pas? La présence de grandes cuves en plastique disposées au fond de sa cour, j'adore cet article, dont la couleur jaunâtre ne laisse pas de place au doute. Donc, il faut imaginer au fond de la cour d'immenses cuves en plastique remplies de pipi, fait maintenant partie de son quotidien. Ici, de l'urine brute, par exemple, provenant tout droit des toilettes sèches d'un festival. Quoi? Attendez. De l'urine des gens qui sont au festival? Non mais attendez, mais faut pas donner ça aux plantes, hein. Les festivals. Les festivals. Ok. Elle doit être chargée, l'urine, non? Après, ils mettent ça sur le blé, sur les légumes, et après, on mange ça, nous. Mais attends, mais c'est un truc à choper de la tachycardie, ça. Hein, hein. Ah, c'est marrant, je vois tout flou, là. Oui, bah oui, mais c'est normal. Je suis pas sûr du move, là. Donc, ici, de l'urine brute provenant tout droit des toilettes sèches d'un festival, là, de l'urine dite concentrée, achetée en Suisse. Ah, quelqu'un me dit, ah, mais c'est lavé, Samuel. Ah, en plus, il la traite. Ah ouais. Ah, ils enlèvent le... T'es sûr qu'ils enlèvent le... Ils enlèvent l'alcool et la drogue. Pour dire les choses, hein. On dit les termes, on est sur Twitch. Ils enlèvent l'alcool et la drogue ou pas? T'es sûr? Bientôt 10 ans que l'exploitation céréalière de 140 hectares, qui apprécie et testait de nouvelles techniques, donc de sexagénaire, sert de terrain d'expérimentation entre épandage de matière organique ou résidus de méthaniseur. Comprenez, quand il n'y a pas de pipi, il y a du caca. C'est vrai que c'est purifié? Ah! Ah oui, urine brute. Donc urine brute, c'est pas traité. Eh oui, brute. Rel 9 me dit, j'étais bénévole dans un festival l'an dernier qui récupère les urines pour faire de l'engrais. Ouais, donc tu connais. J'étais surpris, mais c'est tellement stylé et c'est utile comme usage. Ok. Sa ferme fait partie des plus gros épandages tests en France. Le but de l'essai actuel, pouvoir utiliser l'urine humaine comme fertilisant naturel en lieu et place des engrais azotés issus de l'industrie pétrochimique, du pipi plutôt que du pétrole. Voilà. Depuis fin 2024, la ferme d'Emmanuel Leroux a également intégré le projet Plus-Value, piloté par une chambre d'agriculture, INASOS, près de 200 mètres carrés de culture, donc vous voyez, c'est un tout petit bout de terrain, hein, c'est un test, sont régulièrement arrosés d'urine, soit une part infime de ces parcelles. Des carottes de terre prélevées dans la foulée sont, elles, envoyées à l'INRA pour analyse, notamment pour y détecter d'éventuels résidus de médicaments. Ouais, de médicaments, ouais. Au festival. En cette fin mars, un quatrième épandage du genre se prépare. Christophe Boisset, technicien d'expérimentation à la Chambre d'agriculture de la région, présidé par une alliance FNSEA jeunes agriculteurs, s'arme de sa combinaison blanche. Il dirige un tracteur miniature surmonté d'une cuve à pipi, hein, dans laquelle un liquide jaune se substitue aux habituelles billes blanches chimiques produites à partir de ressources minières. Ah, alors l'ONIS nous rassure sur le pipi. Dans l'entreprise où je travaillais, qui recycle l'urine pour en faire des biostimulants, il y avait une première étape de filtration qui retire presque tous les éléments qui composent l'urine hormis l'azote. À titre de comparaison, pour ingérer l'équivalent d'un cachet d'aspirine, il faudrait manger plusieurs tonnes de maïs. Ouais, mais si tu vas beaucoup au cinéma, imagine, tu vas beaucoup au cinéma, tu manges beaucoup de pop-corn. Quand même. Est-ce qu'il y a un monde où tu manges pas un peu de pipi? Je dis ça, je dis rien. Les cinéphiles, là, en PLS. Comment l'urine peut-elle remplacer ces engrais massivement utilisée dans l'agriculture française? Elle contient de l'azote, c'est l'azote, et un peu de phosphore aussi, deux composants essentiels à la croissance d'une plante. Voilà. Répandre du pipi, ça revient à utiliser du fumier ou un autre engrais, c'est tout aussi efficace, explique Camille Langer, qui est chargée de mission à Terre et Cité. Au milieu d'un champ de maïs, quelqu'un me dit, bon ben je vais pas aller voir le nouveau Mario. Si, mais t'es pas obligé de manger 15 sauts de pop-corn, quoi. Au milieu d'un champ de maïs encadré par des routes ultra fréquentées, la spécialiste en agroécologie martèle qu'il est incompréhensible de préférer aujourd'hui un produit issu des énergies fossiles plutôt que cet engrais local. Hein ? Une ressource inépuisable que l'on préfère cependant éliminer dans les stations d'épuration. Camille dit « mais non, il faudrait l'utiliser pour les cultures ». Camille vante aussi une solution peu onéreuse pour les exploitants, donc le pipi c'est pas cher, alors que le prix des engrais azotés s'envole avec le conflit en Iran. Le nouvel or jaune, exactement, Luigi. Tandis que les buses pulvérisent l'engrais à travers champs, Camille Longer liste d'autres avantages de cette technique ancestrale. Bon, là, c'est full pipi, hein. C'est tous les avantages. Elle permet de réduire les rejets de polluants dans l'eau, de sortir de la dépendance à ces engrais transportés sur des milliers de kilomètres. Quant aux risques concernant les résidus médicamenteux, on en parlait, les premières analyses de l'INRA ne montrent rien d'inquiétant. Voilà. Seules les traces de caféine, à mon avis, il y a du pipi à moi, ça, dedans, de paracétamol et d'acide salicylique. C'est quoi, déjà, l'acide? C'est aspirine, ça, non? l'acide salicylique, je crois que c'est l'aspirine, ont été relevés. Stocker l'urine pendant plusieurs mois avant de l'utiliser permet en parallèle de limiter les agents C'est ça, c'est l'aspirine ? Oh, je suis trop fort. C'est question pour un champion, ça. De limiter les agents pathogènes. Perché sur son tracteur vrombissant, Christophe Boisset, lui, plus dubitatif. Oui, l'idée est bonne sur le fond, mais en pratique, réaliser ce projet à grande échelle est impossible. Ah, zut. À l'orée de la parcelle, Marie Boulard, conseillère technique à la Chambre, pointe un premier frein majeur, la logistique de l'opération. Des quantités énormes d'urine sont nécessaires pour la fertilisation, il faut déjà pouvoir stocker tout ça. Tu sens que Marie Boulard elle maîtrise un peu son sujet. Hein. Elle est un peu le... De plus, épandre de l'urine, ça prend 4 fois plus de temps que de le faire avec de l'engrais de synthèse, car la concentration est... Oui, c'est bon, arrêtez de dire la grosse tête, Adam. La concentration est moindre. Hein. Et le pire avec l'urine de festival, diluée dans l'alcool. Ah, je vous avais dit qu'il y avait un problème. Voilà. Les agriculteurs n'ont pas ce temps, assure-t-elle. Désormais installée au volant d'un autre tracteur, Marie Boulard s'extirpe soudain... Pardon pour Madame Boulard, en vrai. Je suis désolé. Je devrais pas, mais... J'aime bien les patronymes. Marie Boulard s'extirpe soudain de l'habitacle. Enfin, elle y va doucement, parce que faut passer la tête. Faut pas se cogner. Pardon. Je suis désolé. Ça y est, je suis fatigué. J'ai dormi 3 heures et je ris pour rien. Ça y est, putain, j'en étais sûr. J'ai pas dormi, je suis crevé. J'ai joué aux échecs toute la nuit, je suis désolé. Donc, Marie Boulard... Pourquoi ils ont écrit Marie Boulard s'extirpe du véhicule aussi ? Ils sont cons, hein ? C'est fait exprès, hein ? Ouais, Madame B, exactement, on va dire Madame B. Alors, Marie B, voilà, s'extirpe souvent de l'habitacle. Elle est dans le mauvais sens du vent. Elle se prend toute l'odeur dans le visage. Voilà. Une légère bourrasque confirme l'appréciation. Là, on a un peu l'impression d'être rue de la soif. Oh, j'adore. Ça sent le pipi, quoi. Voilà, ça sent le pipi. Concède Camille Longet en souriant, un retour partagé par certains habitants installés à proximité. T'as des habitants du coin qui disent « ça sent un peu la rue de la soif, ça sent un peu le pipi, quoi. » Ouais. Marie Boulard. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu qu'il était revenu. Madame B. Grimace alors. Il y a encore trop de contraintes, explique la conseillère technique, tandis que les bus s'arrêtent. Tant que l'azote est à un prix acceptable, on continuera de faire avec. Ouais. Mais concentrer l'urine... Un procédé encore impossible techniquement sur le sol français. Ah, il faut qu'on concentre l'urine. À l'inverse de la Suisse, pour éviter ce travail monstre, pour être la bonne solution. Donc, l'urine concentrée peut-être. Ces terres, en tout cas, sont à disposition. Ouais, c'est intéressant, voilà. Même un gars qui... Il y a un éclairage, si ça vous intéresse, qui est un chercheur qui s'appelle Fabien Esculier, dans Libération, page 19 aujourd'hui, ce jeudi-là, qui dit les engrais de synthèse n'ont jamais été nécessaires, en fait. Il y a l'ONIS qui se fâche, qui dit « Mais si, ça existe en France !» L'ONIS, c'est le spécialiste du pipi dans le chat depuis tout à l'heure. Hein. L'ONIS, il a bossé dedans. L'ONIS, je trouve ça fascinant. Et il dit « Si, si, ça existe l'usine concentrée. L'usine. L'urine concentrée. » Ok. Donc ça existe, les gars. Oh là là ! Nelling, bordel ! Nelling, il va nous casser notre ambiance. Nelling, quid des impacts sur l'environnement et notamment sur les cours d'eau qui vont recevoir et accumuler tous les résidus non filtrés des urines du bassin versant ? Il y a déjà des études qui montrent l'impact des résidus contraceptifs qui passent au travers des stations d'épuration sur les populations de poissons. Quid des prédateurs et charognards qui vont accumuler les petites doses de médicaments ? Nelling, t'as un peu le boulard, hein ? Si je puis me permettre. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Désolé. T'inquiète, le Nice. Tu régales. Bon, bah voilà. Bah, je suis très content parce que je me suis dit ce matin, bah, en lisant les journaux, ah, tout à l'heure, je vais leur parler de pipi. Et ouais, j'étais tout seul, parce que le matin, c'est moi qui me lève le premier quand même, pour lire les journaux à la maison. J'étais tout seul dans le salon, avec mon, pas mon petit café, parce que ce matin j'ai pas trouvé la machine à café, était en kit, elle était démontée, j'ai pas su retrouver les bouts. Et j'étais en train de lire mes journaux, et à un moment je suis tombé sur cet article, et j'ai souri, j'ai dit ah, on va rigoler, hein, on va raconter l'histoire de pipi. Et puis j'avais pas vu, en plus j'avais pas vu qu'il y avait Madame Boulard. Voilà. Ça me permet de finir sur une note un peu plus légère. 2h58 de live. Est-ce qu'il y aura un react à l'audition entière de Nagui par notre ami Charles Allonc? C'est ton ami Moulzer. C'est pas mon ami, il raconte que des conneries. Oui, il y aura une audition d'ici la fin du week-end. Bien sûr. Allez, let's go! On va faire un petit raid, on va voir qui est en live. Merci d'avoir été là. Ça reprend tous les matins maintenant. C'est tous les matins la revue de presse. Demain matin, c'est un peu particulier. Hein. La revue de presse, elle sera très courte, 9h-10h, puisque je suis en direct demain matin de la Cité des sciences et de l'industrie pour le printemps de l'esprit critique, avec une heure de revue de presse, une heure de battle d'éloquence sur la question de l'esprit critique et de l'argent demain, et une heure de table ronde avec des invités pour parler de tout ça. Autant dire que je vais bosser là-dessus cet après-midi. Prends l'exclamation décryptage, c'est gratuit, c'est en stream, c'est gratuit sur place si vous voulez venir aussi. Il y a 350 places. 350 places.
Combien ?
350 places.
Combien ?
T'es sûr ou quoi ? 350. Et donc, n'hésitez pas à venir, prends l'exclamation décryptage dans le chat. Voilà. Et sinon, après, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quelle chaîne ? Ma chaîne ! Tu veux que je fasse ça où ? Calistera ? Ma chaîne, la chaîne Twitch. Pas sur TF1, donc sur ma chaîne ou sur place, vous pouvez venir. Voilà. Et donc, du coup, je sais pas si je live ce soir parce que il faut que je prépare ça bien. Il faut que je prépare ce stream bien. Voilà, donc, je suis pas sûr de streamer ce soir. C'est pour ça que je vous dis l'audition de monsieur Nagui par monsieur Allonc, ce sera sans doute pour ce week-end. Qui est en live. Des gens sympas, des beaux gens. Des gens beaux, qui n'est en live, qui n'est en live. Non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle. RL. Je chante la Marseillaise, là, tout va bien. Ah, c'est marrant, je connais pas ça, tu vois. Tu vois comment c'est écrit? Comment tu disais? Ah, je l'ai pas. J'espère que ça s'écrit comme ça. Ok. C'est pas mal ça, je connais pas. On peut faire des propositions, bien sûr. Marchons. Il y a quelqu'un que j'ai pas arrêté depuis longtemps que j'aime beaucoup. Allez, on fait ça. Ah quoi? Ah ouais, vous avez raison, je redistrime, on vient de parler de pipi, vous avez raison. On vient de parler d'engrais, de pipi, je redistrime, ça s'impose, vous avez raison. Voilà, vous m'avez convaincu, c'est tout. Vous m'avez convaincu, c'est parti. Let's go! Je redistrime, qui est... Oh, c'est génial ce qu'il fait, c'est un passionné de jardinage, c'est génial. Et en plus, c'est en termes de réalisation, de son, d'image, c'est super propre. C'est parti! Let's go. Les raids, on fait attention maintenant. Vous m'en voulez pas, je coupe la caméra parce que... À propos de pipi, justement, je ne voudrais pas que... Je fasse des dingueries. La caméra est éteinte. L'image de fin est affichée. Je lance le raid. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain matin ou plus tard. Peut-être à ce soir, mais... faut que je travaille aussi. À très vite. Merci pour ce matin. Ciao, ciao. Ah, ils sont en train de charger. Alors, je vous fais un décompte. Sur fond de ma 16. 5 secondes. 2 secondes. 1 seconde. C'est parti.